Il est de sagesse commune que ceux qui ignorent l'histoire sont condamnés à la répéter. Pour cette raison, à la fois pour le bien des individus et pour celui d'un futur réveil de la véritable Église du Christ, cette analyse est présentée. Pendant 30 ans, les premiers Quakers furent dans une grande unité d'esprit. Mais en 1672, ils étaient devenus plusieurs centaines de milliers. Les Quakers constituaient de nombreux groupes d'assemblées individuelles libres, avec peu de supervision, hormis des avis de la direction nationale. Dans certaines de ces assemblées faiblement encadrées, il y avait des personnes ambitieuses ou trompées qui s'emparaient des fonctions de ministres et de surveillants. Cela était probablement dû à l'immaturité des congrégations, car il y avait bien plus d'assemblées que de ministres, évangélistes et enseignants établis par le Saint-Esprit pour les superviser. Il y eut, en 1672, une lettre de la Réunion générale adressée à toutes les assemblées d'Angleterre, visant de tels ministres et surveillants non régénérés, inachevés. De prime abord, on se demande pourquoi ils furent tolérés, mais les démettre de leur charge par la direction nationale aurait violé le principe fondamental des Quakers, que chaque membre peut agir en sa propre liberté, et chaque réunion selon sa propre autorité, comme partie de ce corps que Jésus-Christ a affranchi. La lettre fut donc écrite comme un avis et un appel à s'améliorer. Une purge nationale des directions locales aurait été un remède pire que le mal. J'ai entendu la voix du Seigneur parler de ce problème déroutant, disant « Nous pouvions à peine rester là tandis que nous regardions la beauté de notre Église être défigurée. » Cependant, le risque d'une direction inachevée est qu'elle finira par devenir ambitieuse et par vouloir régner totalement, sans surveillance ni réprimande, entraînant les autres vers la séparation et la destruction. La lettre de l'année suivante, émanant de la Réunion générale, fut donc bien plus sévère envers ses dirigeants inachevés. Comme prévu, des schismes s'ensuivirent, le plus notable, du vivant de Fox, étant la scission Wilkinson Story, relatée dans le journal de Fox et l'histoire de Soul. Faisant semblant de s'opposer aux réunions de femmes, le vrai problème était qu'ils ne voulaient pas être censurés par les assemblées pour leur conduite clairement contraire à la loi scripturaire, convoitise, profanité, adultère, etc. Cette scission s'éteignit peu après. Toutes les scissions suivantes conduisirent à l'éloignement des Quakers de la vérité. Mais nous pouvons désigner l'apparition de dirigeants non crucifiés, dont les paroles et la conduite n'étaient pas contrôlées par le Saint-Esprit, comme la source ultime de cet éloignement. William Sewall, qui connaissait plusieurs des chefs de ces scissions, a livré quelques perles de sagesse au sujet de ceux qui se séparèrent, mais comme dans les grandes communautés, on trouve généralement des hommes qui aiment gouverner sans en être capables. La formule habituelle de ces gens était devenue que chacun, ayant reçu une mesure de l'Esprit de Dieu, devait ne considérer que ce guide-là, sans tenir compte des règles prescrites par d'autres. Mais cela n'est pourtant pas si étonnant que certains pourraient le penser, car nous avons en mémoire que, même dans l'Église apostolique primitive, il y eut un Alexandre le forgeron, et un Hyménée et un Philète, qui firent naufrage quant à la foi et causèrent une déchirure, à tel point qu'il est dit que leurs paroles rongeraient comme un chancre. Les éloignements de la foi des premiers Quakers se produisirent depuis deux directions d'attaque. Un éloignement de la doctrine fondamentale de l'harmonie entre les Écritures et la grâce salvatrice de la lumière, à savoir que le salut résulte, au fil du temps, de l'action de la lumière du Christ qui ôte le péché des cœurs des croyants s'efforçant d'écouter et de veiller en silence, afin d'attendre la grâce et la puissance d'enseignement du Seigneur, en donnant dans le temps, la priorité à l'attente dans la parole et la lumière vs. Étudier les Écritures, mais en se servant des Écritures pour espérer, et pour éviter d'être égaré par des imitations de la lumière suggérant des pratiques interdites par les Écritures. Des éloignements se produisirent aux deux extrêmes, avec 50 à 100 ans entre les revirements à dépendance totale à la lumière mettant en doute les Écritures, ce qui conduisit à ne plus croire aux vérités contenues dans les Écritures. Ainsi, la masse principale des Quakers perdit totalement de vue le péché, ivrognerie, convoitise, immoralité sexuelle, avidité, rage, envie, ambitions égoïstes, débauche, jalousie, crêle, orgueil, cupidité, sottise, etc. Réduisant leur définition du mal à la guerre, l'énergie nucléaire, la pollution, etc. Ils devinrent ainsi ouverts à des directions trompeuses émanant de fausses voies et d'imitations de la lumière, tombant dans des pratiques et des formes interdites par les Écritures, ce qui les empêcha d'atteindre la maturité en Christ. B. Dépendance totale aux Écritures, croyant que les Écritures étaient la lumière, et que le salut pouvait résulter de l'acceptation du témoignage des Écritures concernant la mort, le sang et la résurrection de Jésus, ne consacrant donc pas leur temps à recevoir les enseignements et les transformations de la grâce, tout en demeurant dans la parole et la lumière vivante, le Christ, ce qui les empêcha d'atteindre la maturité en Christ. Dans l'une ou l'autre des erreurs ci-dessus, on manque l'équilibre nécessaire, la grâce transformatrice de la lumière pour le cœur, tout en utilisant les Écritures pour conserver l'espérance de pureté, d'union et du royaume, et pour éviter de tomber dans la tromperie au cours du cheminement spirituel. Le Saint-Esprit a écrit les Écritures à travers les esprits éclairés et les plumes des prophètes et des apôtres. Ainsi, quelle que soit la véritable direction de la parole et de la lumière envers ses disciples, la parole ou la lumière, toutes deux étant le Christ, n'entrera jamais en conflit avec les Écritures. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, les Écritures s'appliquent aussi pour toujours. Sans les Écritures comme garde-fou, les tromperies seront facilement acceptées et suivies, empêchant tous d'atteindre la pureté, l'union et le royaume de Dieu promis. Un glissement progressif, pas à pas, vers des règles et des règlements, si sains qu'ils paraissent, porta atteinte à la liberté chrétienne, qualifiant certaines actions de leurs membres de mauvaises. Les Quakers établirent ces règles, alors même que les Écritures entraient en conflit avec les règles imposées CAD. L'interdiction de l'alcool, des vêtements à la mode, du soutien ou de l'association avec des enfants naturels qui avaient quitté le groupe et s'étaient mariés par un prêtre et bien plus tard, les protestations sociales organisées qui caractérisent le mouvement d'Ode de Dieu. Pour le bien de l'ordre évangélique dans l'Église, il y aura certains ordres donnés par le Seigneur, auxquels on ne trouve pas de renvoi dans l'Écriture, comme lorsque George Fox reçut l'ordre que tous les chapeaux des hommes soient retirés avant la prière. Ceux-là aussi doivent certainement être obéis, voir les lettres historiques pour les premiers règlements. Mais les ordres du Seigneur ne contrediront jamais l'Écriture. Très tôt, la société vit des hommes s'élever à des positions de direction dans diverses assemblées, qui n'avaient pas persévéré sur la croix pour jouir de l'élévation de la lumière, en usant quantité suffisante pour guider leurs paroles et leurs actes. C'étaient les vierges folles qui avaient une lampe, mais sans huile pour brûler et produire la lumière nécessaire pour voir. Ils avaient une grande connaissance des Écritures et avaient même bénéficié de plusieurs révélations du Seigneur, qu'ils ajoutaient à leur savoir charnel, leur donnant de grandes paroles à prononcer dans leur orgueil, les laissant satisfaits de connaître bien des vérités sans réellement connaître le Seigneur, ni que le Seigneur les connaisse vraiment. Les ambitieux se mirent à enseigner depuis des postes de direction, entraînant les autres en captivité par des paroles non prononcées depuis l'Esprit. Ce faisant, ils se retrouvèrent eux-mêmes enfermés dans la captivité. Les ambitieux et les grégaires parmi les vierges folles prirent le contrôle de la société des Quakers, ne produisant rien d'autre que davantage de vierges folles, et les vierges sages, beaucoup moins nombreuses, disparurent peu à peu. Les Quakers se dégradèrent, passant de la véritable Église de Dieu à une simple secte déficitaire parmi d'autres, à une simple banlieue de Babylone. William Dewsbury, l'un des premiers Quakers qui demeurait dans le royaume, a un excellent écrit sur les vierges folles et les vierges sages, où il décrit en détail les vierges folles au sein de la société. Stephen Crisp, l'un des premiers Quakers qui demeurait dans le royaume, parlait et écrivait souvent longuement pour exhorter ses membres de la société qui n'avaient pas progressé jusqu'au royaume, qui se contentaient de vivre dans les mots plutôt que dans la vie de Dieu, laquelle vie est la lumière des hommes, mais elle ne s'était pas levée en eux. Peu après sa mort, ses écrits tombèrent rapidement en disgrâce au sein de la société, mais beaucoup sont disponibles sur ce site pour votre édification. Avis et recommandations pour éviter de futures tromperies et la détérioration de la vérité. Comme ci-dessus, maintenez la lumière et la parole dans votre cœur comme source de conviction et de transformation, en utilisant les Écritures pour l'espérance et pour éviter la tromperie. Tous les anciens et ministres, avant d'assumer initialement leurs fonctions, devraient d'abord être présentés aux membres plus âgés pour approbation, puis au corps pour approbation. Tous les anciens et ministres uniquement, non l'ensemble des membres dont la maturité varie, devraient être tenus de réaffirmer périodiquement leur accord avec une déclaration de croyance, telle qu'on en trouve sur ce site de George Fox et Edward Burroughs. Selon la parole du Seigneur au-dedans, dans toute réunion, il devrait y avoir une certaine uniformité d'esprit et une unité de dessein. Ils devraient être universellement souscrits par tous que leur but dans l'association et l'assemblée est de chercher la face de Dieu par une foi au moins dans le nom de Jésus-Christ, d'être instruits directement par la lumière, le Christ de Dieu, et de partager leurs renseignements quand ils y sont dirigés, afin que tous puissent atteindre la pureté, l'union avec Dieu dans son royaume, et être guidés par lui dans l'obéissance à sa volonté, un désir sincère que ta volonté soit faite. Toute action sociale ne violerait pas les avertissements des Écritures CAD, n'aurait aucun objectif politique et aucune inclinaison anti-gouvernementale. Si personne n'est suffisamment mûr pour parler par l'Esprit, tous devraient garder le silence en attendant la maturité, même si aucun ministre n'est disponible. C'est ainsi que les réunions Quakers ont commencé, très souvent sans qu'aucun mot n'y soit prononcé. Si quelqu'un a des réserves au sujet des Écritures, qu'il ne prêche pas, n'enseigne pas et n'en parle pas, qu'il demeure plutôt silencieux, attendant que le Seigneur révèle la connaissance requise au moment où elle sera nécessaire. Faites confiance à votre Maître pour vous donner la connaissance quand vous en aurez besoin, mais vous devez faire confiance à son jugement, non à votre curiosité intellectuelle qui recherche une connaissance enflée. Rappelez-vous que beaucoup des premiers Quakers se virent révéler les détails et les mystères des Écritures par le Christ lorsqu'ils entrèrent au paradis, le royaume de Dieu. Fox déclara qu'il avait peu de connaissances des Écritures avant que le Christ ne l'instruise personnellement après son entrée dans le royaume. D'après la parole du Seigneur au-dedans, « Je t'ouvrirai la Bible. Cherchez donc le royaume comme votre priorité suprême, vous n'avez pas besoin de comprendre chaque nuance de l'Écriture pour parvenir à votre but. Usez des Écritures pour l'espérance, et, jusqu'à ce que vous soyez instruits par le Saint-Esprit, utilisez les Écritures pour comprendre ce qu'est le péché, afin d'en éviter autant que possible. » Ne faites pas l'erreur de supposer que George Fox, William Penn, Isaac Pennington, James Pownell, Margaret Fox, George Whitehead, William Dewsbury, Stephen Crisp, Ambrose Rigg, Edward Burroughs et Francis Haugill étaient imparfaits et défaillants dans leur compréhension doctrinale, ou comme des Quakers ultérieurs les ont accusés d'être fanatiques illusionnés. Un dirigeant éminent des conservateurs Quakers, qui se targue d'être comme les originaux, m'a dit « Qu'est-ce que George Fox avait que je n'ai pas ?» Quand j'ai répondu « La perfection », cette personne a dit « Ne me dis pas ça, même Pierre a renié le Christ trois fois. » Sous le choc, j'ai dit « Mais c'était avant qu'il ait reçu la puissance du Saint-Esprit à la Pentecôte. » La personne a répondu « Ah, ça fait une différence. » Dans une lettre d'avertissement de Stephen Crisp, l'un des grands pionniers Quakers, il est fait référence à des Quakers spirituellement immatures, défiant et raillant les anciens, qui avaient été transportés dans le royaume des cieux et qui prononçaient la parole du Seigneur, en présence de Dieu, comme ils y étaient poussés par l'Esprit de Dieu, c'est la même chose qu'un prétendu chrétien s'adressant avec mépris à l'apôtre Paul. Mais parce que l'amour ne se vante jamais, les plus grands serviteurs du Seigneur ne font que raisonner, supplier et avertir. On pourrait penser que, puisque les grands hommes de Dieu révélaient les mystères des Écritures et du royaume, les plus jeunes auraient été humbles et respectueux, se soumettant à leur sagesse et à leur plus grande mesure de Christ. Stephen Crisp décrit exactement comment cette tromperie s'est produite. Dans une autre lettre d'avertissement, il s'adresse à ceux qui se contentent d'avoir le nom de Quaker, d'assister à des réunions silencieuses et d'une longue appartenance sans jamais faire l'expérience du royaume. D'autres ressentent sa présence vivifiante, qui soit les remplit de joie et de consolation, soit ouvre leur intelligence dans la lumière à une certaine connaissance de et un témoignage contre ces choses qui se dressent encore en travers du chemin et empêchent la joie de son salut de leur parvenir. Mais vous, qui êtes assis dans une aride formalité sans travail intérieur dans votre esprit, vous ne connaissez ni l'une ni l'autre de ces choses, mais vous continuez dans les ténèbres, sans savoir où vous allez. Ainsi, avec le temps, puisque vous êtes si étranger à l'œuvre puissante de la vérité en vous-même, cela grandit jusqu'à ce que vous veniez à vous demander si d'autres témoignent réellement de telles œuvres puissantes. Car tout ce qui n'est pas éprouvé est sujet à question, comme celui qui n'a jamais vu ne sait pas ce qu'est voir, et celui qui n'a jamais senti une odeur ne sait pas ce qu'est sentir. Ainsi celui qui, par une longue persistance dans cette manière formelle d'aller aux réunions, demeure encore sans connaître la puissance, finira par être facilement amené à se demander s'il existe réellement une telle puissance ou non. L'orgueil est aveugle. Ainsi, nous avons 300 ans de Quakers orgueilleux et immatures, doutant de l'existence d'un paradis glorieux ou d'un royaume, concluant que George Fox, George Whitehead, Francis Haugill, Margaret Fox, etc. étaient des fanatiques illusionnés, tout comme beaucoup de protestants modernes considèrent à tort l'apôtre Paul comme un extrémiste, ou du moins comme une personne très rigide et guindée. Les premiers pères Quakers étaient en parfaite harmonie avec la Bible, avec les enseignements de Jésus, avec Pierre, Paul, Jean, etc. Ils avaient le même Saint-Esprit qui contrôlait leurs paroles et leurs actions. Tant que vous n'avez pas le Saint-Esprit contrôlant chacune de vos paroles et de vos actions, vous n'êtes pas dans la même mesure d'esprit qu'eux. Soyez assez humble pour admettre que quelqu'un d'autre peut avoir plus de maturité spirituelle que vous. Étudiez leurs écrits. Tout ce dont vous avez besoin pour comprendre le véritable chemin se trouve dans leurs écrits. Déprécier les écrits des premiers Quakers est la grande erreur et constitue en soi la source majeure de l'éloignement des Quakers de la vérité. Dans une prophétie du Seigneur transmise par Mary Haugill, le Seigneur a dit « Ils laisseront en mémoire une déclaration plus claire et plus céleste que mes serviteurs n'en ont jamais laissé auparavant, et elle subsistera à travers les âges et les générations à venir, afin qu'ils voient comment Dieu s'est manifesté à son peuple en un jour de grande souffrance. » Prenez garde, l'une des plus grandes armes de Satan contre tout croyant, c'est la tentation de prêcher ou d'enseigner avant d'être spécifiquement perfectionné, restauré et autorisé par le Christ, avec le Saint-Esprit disant à cette personne exactement quoi faire et quand le faire, et en étant capable de parler avec des paroles reçues du Saint-Esprit, non avec des paroles qui viennent de elle. Esprit charnel, qui est inimitié contre Dieu. Si vous prêchez depuis l'esprit charnel, vos enseignements et vos prédications sont non seulement inefficaces, ils sont erronés, et par conséquent, attirent sur vous la condamnation, le moindre de ces effets étant votre propre retard spirituel. The New Foundation Fellowship, un groupe Quaker étroitement allié au mouvement Quaker conservateur, fait campagne pour le message des premiers Quakers, mais malheureusement sans l'autorité, la direction et les paroles fournies par le Seigneur avant d'être prononcées. Le fondateur de la NFF, Louis Benson, après s'être consacré à ramener les enseignements de Fox au cœur du mouvement Quaker dominant, a laissé cette fondation afin de financer la poursuite de ses efforts par d'autres après sa mort. Cependant, Benson a lu ses sermons pendant de nombreuses années, et il a limité son œuvre à la réforme des Quakers. Demandez-vous maintenant, s'il avait été un véritable ministre de Dieu, lirait-il ses sermons, et Dieu ne l'aurait-il envoyé parler qu'aux Quakers? Malheureusement, il était comme des centaines de milliers de ministres dans la chrétienté, pas complètement instruits par la voie et la lumière du Seigneur, pas perfectionnés par le Seigneur, pas dotés d'un ministère autorisé, pas envoyés par le Seigneur, et ne prononçant pas des paroles venant de l'Esprit du Seigneur, mais parlant voire lisant depuis leurs esprits charnels, la nature de la mort, et prêchant leurs vaines opinions issues de l'imagination de leur cœur mauvais. Considérez le sort de ceux qui ne sont pas perfectionnés, guidés et envoyés par le Seigneur, je ferai venir sur vous un opprobre éternel et une honte perpétuelle, qui ne sera pas oubliée. Jer 23:40 Les premiers Quakers furent fortement exhortés par Fox à ne jamais apporter aucun changement à leurs pratiques sans l'accord des membres les plus âgés. L'Église du Christ n'est pas une démocratie, à quoi les Quakers des temps plus tardifs ont dégénéré. Les plus jeunes étaient censés se soumettre aux anciens, en années spirituelles, lesquels devaient évidemment manifester une plus grande maturité spirituelle. Ils comprenaient que différentes personnes avaient différentes mesures de l'Esprit du Christ, tous n'étaient pas égaux. De même, vous les plus jeunes, soumettez-vous à vos anciens, mais seulement s'ils montrent une maturité spirituelle manifeste les qualifiant comme anciens. Pierre écrivait à des groupes qui avaient de véritables anciennetés qu'anciens spirituels. Oui, vous tous, soyez soumis les uns aux autres et revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en son temps. 1 Pierre 5, 5-6. Comme Fox en donnait l'exemple, il ne donnait pas d'ordre aux autres. Il était plutôt l'instrument par lequel le Seigneur guidait l'établissement d'une structure de gouvernement dans l'Église, avec des procédures et des politiques correspondantes. Fox révélait ensuite cette direction, que d'autres personnes mûres reconnaissaient immédiatement comme une politique sage et digne. Il n'y a qu'un seul roi, et c'est le Christ pour tous, mais parmi ses sujets, tous n'ont pas les mêmes dons, la même autorité ni la même responsabilité. William Caton, jeune ministre Quaker, se lamentait sur sa faible stature en Christ comparée à celle de certains notables Quakers plus âgés qu'il avait observés. Lorsque le Seigneur lui donna cette compréhension classique, le Seigneur me montra comment ceux qui avaient beaucoup n'avaient rien en surplus, et ceux qui avaient peu ne manquaient de rien, comme il en était des Israélites autrefois. Car pour les frères qui étaient sages et éminents, qui avaient beaucoup reçu du Seigneur, il fallait remarquer que d'autant plus il leur était demandé, de sorte que, de tout ce qu'ils avaient, il ne leur restait rien en trop, sinon ce qu'ils devaient employer dans l'œuvre et le service de Dieu. Une autre manière d'envisager ces différentes mesures de Christ est la suivante. Quel que soit le corps et le cerveau que nous avons, quelle que soit la connaissance de Dieu que nous possédons, quelle que soit la sagesse que nous avons, tout nous a été donné par notre Créateur, et cela lui appartient pour être employé à son service comme il le juge bon. Ainsi il n'y a rien dont s'enorgueillir, et il n'y a rien qui doive nous faire nous sentir diminués, car nous ne sommes tous que des outils dans la main de Dieu, à façonner et à utiliser comme il le sait le mieux. La joie est d'obéir à sa volonté parfaite, quel que soit son choix pour nous, il est parfait, car il vient de l'esprit parfait, de la sagesse parfaite et de l'amour parfait. Et lorsque nous sommes dans l'unité de l'esprit, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de sentiment de supériorité ou d'infériorité, car nous sommes tous un, les cœurs unis dans l'amour, un esprit, un corps de Christ, une bouche. Étant du même corps, comment le bras pourrait-il en vouloir à l'œil, ou la main envier le pied? Reconnaissez que la seule unité de l'esprit qui puisse exister est celle où le Saint-Esprit contrôle chaque membre qui a une autorité décisionnelle. Cela exige la maturité spirituelle, vers la pureté, vers la mort sur la croix de tel membre, avant que le Saint-Esprit et le Christ puissent s'asseoir sur le trône du contrôle, en l'ôtant à l'esprit et à l'âme égoïste qui doivent mourir. Sans une telle maturité, il ne peut y avoir d'unité. C'est pourquoi, à l'origine, la discipline n'était laissée qu'aux membres mûrs, reconnus par les anciens comme ayant une maturité suffisante pour être contrôlés et gouvernés par le Saint-Esprit. Sans cette unité, au moins dans les membres gouvernants, le corps est comme des enfants ballottés çà et là, emportés par tout vent de doctrine. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de la plénitude de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, ballottés çà et là et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes, par leur habileté dans les manœuvres de séduction, mais professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. F13-15 Méfiez-vous de ceux qui posent des questions d'importance mineure, mais évite les questions folles et sans instruction, sachant qu'elles engendrent des crêles, 2 Tim 2-23. Ces personnes immatures sont ambitieuses et recherchent la controverse, ce qui attire avec elles d'autres membres immatures et leurs nouvelles doctrines. Il faut leur répondre, « Quand tu auras besoin de savoir, le Seigneur te le révélera. » Ensuite, elles devraient être reprises en privé pour avoir posé des questions sans importance, qui ne concernent pas le processus permettant d'atteindre la maturité en Christ, lequel se fait par le fait de s'asseoir chaque jour dans un silence humble, en attendant le Seigneur, écouter, veiller, entendre et obéir à ses ordres, ce qui conduit à une force et une compréhension croissante. Voir la lettre de Stephen Crisp sur ce sujet pour plus d'informations sur la manière dont c'est un outil de l'ennemi, créer une controverse insignifiante, jusqu'à ce que l'affaire importante qu'ils auraient dû considérer, à savoir comment être gardé dans l'amour de Dieu et dans l'unité céleste, ait été pour beaucoup perdu et oublié. Depuis combien de temps vous avez cru, ne laissez pas votre ambition et votre orgueil vous vaincre en crêlant et en disputant. Soyez patient et attendez que le Christ vous enseigne, vous transforme et vous donne la compréhension. Si le Saint-Esprit vous dit clairement, non par sentiment, opinion, spéculation, un fardeau, un appel, une porte qui s'ouvre, une émotion de dire spécifiquement quelque chose, faites-le à tout prix et seulement cela, puis retournez au silence. Cependant, sur le conseil d'Edward Burroughs, cliquez pour lire, l'un des grands des premiers Quakers, nous ne devrions rien faire pour le Seigneur sinon nous repentir jusqu'à ce que nous puissions distinguer entre la voix du Seigneur et la voix de l'ennemi. Et William Penn a écrit « Cliquez pour lire », bien qu'il soit du devoir de tous de marcher dans la lumière, et de l'attendre, afin que par elle ils soient instruits dans le chemin de la vie et du salut, pourtant ce sont seulement ceux qui sont réellement conduits astérisque par elle la lumière. Astérisque à titre de rappel, pour être guidé ou conduit par la lumière doit d'abord se lever dans votre cœur comme une étoile magnifique, afin qu'il vous soit montré tout ce qu'il faut faire et dit tout ce qu'il faut dire, l'élévation indubitable de la lumière vient de la foi dans la voix. Toute action dans votre chair pour corriger les maux du monde, si sains que vous paraissent vos motifs, à moins d'avoir été spécifiquement dirigé comme ci-dessus, une telle action ne fera que retarder ou arrêter votre progression spirituelle, quel qu'en soit l'objectif, esclavage, droit des femmes, protection de l'environnement, prévention de la cruauté envers les animaux, campagne anti-drogue, abus d'alcool, maltraitance des enfants, mondialisation, avortement, guerre, etc. La correction de tout membre devrait toujours se faire avec grande patience et amour, en utilisant l'écriture chaque fois que possible pour étayer la position. Les restrictions punitives ne devraient être appliquées que lorsque la personne refuse constamment la correction et est susceptible de répéter la faute, ce qui nuirait à la réputation du groupe ou à sa conformité sur le même sujet. Toutefois, en cherchant à avoir la patience de ramener la brebis perdue dans le bercail, ne donnez pas à ceux qui sont dans l'erreur l'occasion de tromper davantage de brebis en les entraînant avec eux vers la perdition. Avertissez-les deux fois et, s'ils ne reconnaissent pas leur faute et ne se repentent pas, expulsez-les rapidement, en leur permettant de revenir quand, et si, ils reconnaissent leur erreur. Au nom de l'amour, de la tolérance, du non-jugement et de la bienveillance, des divisions se produisirent parce que les instigateurs de controverses furent tolérés bien trop longtemps, entraînant des milliers de personnes hors de la société et dans les ténèbres. Les règles ne devraient jamais violer la liberté chrétienne des membres, en particulier en ce qui concerne la nourriture, la boisson, de nombreuses questions familiales et les préférences personnelles, y compris l'habillement. Le raisonnement des règles devrait être énoncé clairement et logiquement, et être disponible pour que tous puissent le consulter et le comprendre. Comme l'a dit la parole du Seigneur au-dedans, les règles créent une société légaliste, pas une société libre. Certes, nous continuons d'obéir aux lois morales fondées sur l'amour, mais nous évitons les règles. Certes, nous ne pouvons pas soutenir Babylone. Certes, nous devons marcher conformément à notre profession de foi. Mais laissez-moi vous donner un exemple problématique. Je ne possède pas d'armes à feu, mais je connais beaucoup de gens qui en possèdent. Si nous décidons que les armes à feu sont mauvaises, sans aucune restriction scripturaire sur les armes, alors nous pouvons faire une règle selon laquelle quiconque possède une arme à feu ne peut pas faire partie de notre groupe. Pourtant, ce que nous disons, c'est nous ne faisons pas confiance au Christ pour décider quand et si nécessaire il doit convaincre et ordonner à des membres individuels d'y renoncer. Ou encore, que dire des téléviseurs, que dire de la longueur des robes des femmes? Pouvons-nous faire confiance au Christ pour décider si et quand cela est nécessaire, puis pour convaincre chaque membre individuellement? Les règles détruisent toute la notion de conscience individuelle et de liberté chrétienne. Pour le bien de l'ordre évangélique dans l'Église, il y aura certains ordres donnés par le Seigneur, auxquels on ne trouve pas de renvoi dans l'Écriture, comme lorsque George Fox reçut l'ordre que tous les chapeaux des hommes soient retirés avant la prière. Ceux-là aussi doivent certainement être obéis. Croyez-le ou non, la pratique d'ôter le chapeau dans la prière fut à l'origine de la première scission du mouvement Quake. John Perron fut le chef, criant que retirer le chapeau pendant la prière violait la conscience. Plusieurs Quakers éminents le suivirent dans cette scission, que Fox et plusieurs autres vainquirent avec succès par un raisonnement patient, selon le conseil de l'esprit. Voir la lettre de Fox pour une compréhension complète. Concernant la fréquence de la recherche pour entendre le Seigneur, comme le dit William Penn, vous devez chercher comme il faut, de tout votre cœur, comme des hommes qui cherchent leur vie, oui, leur vie éternelle avec diligence, humilité, patience, comme ceux qui ne peuvent trouver plaisir, consolation ou satisfaction en rien d'autre, à moins de trouver celui que vos âmes recherchent, et que vous désirez connaître et aimer par-dessus tout. Oh, c'est un labeur spirituel, que le monde charnel et mauvais pensées dise ce qu'il veut. Et c'est par ce chemin que vous devez marcher vers la cité de Dieu, qui a des fondations éternelles, si vous voulez un jour y parvenir. Une réunion par semaine, 3 à 4 heures par réunion le premier jour était courante, n'est pas chercher de tout votre cœur. Vous devez chercher aussi chez vous, quotidiennement. Ce temps doit augmenter à mesure que le Seigneur vous éloigne de l'amour du monde. Les premiers Quakers se réunissaient aussi une ou deux soirées par semaine pour attendre le Seigneur ensemble. Recevoir quelques touchés de la lumière n'est pas le résultat final, ce n'est que le commencement. Tout en dépréciant les écrits de Fox, Pennington, Dewsbury, Penn, Haugill, etc., les Quakers du XIe siècle semblaient penser que, puisqu'ils avaient des expériences avec la lumière, ils étaient à l'égal des géants Quakers des débuts et que, par conséquent, leur opinion était tout aussi importante que celle de Fox ou de Pennington. Mais ce qu'ils n'ont pas accepté, c'est l'exigence de la mort du moi sur la croix, comme nécessaire pour eux-mêmes, leur esprit devant nécessairement être détruit par la lumière, et le Saint-Esprit seul dirigeant toutes leurs pensées, prières, actions, écrits et prises de parole. Ils rejetèrent ces préalables au salut et à l'autorité de parler au nom de Dieu, scellant ainsi l'éloignement de la foi hors de la vérité. Comme l'a si bien formulé Isaac Pennington, qui demeurait dans le royaume, que le Seigneur Dieu est capable de racheter parfaitement du péché en cette vie, qu'il peut chasser l'homme fort, nettoyer la maison et la rendre apte à ce qu'il y demeure, qu'il peut mettre fin à la transgression et au péché dans le cœur, et y faire entrer la justice éternelle, qu'il peut fouler Satan sous les pieds de ses saints et les rendre plus que vainqueurs sur lui, cela il l'avoue, il le croit fermement. Cependant, que quiconque est tourné vers la lumière de l'Esprit du Christ dans son cœur soit d'emblée parvenu à cet état, cela ils ne l'ont jamais soutenu. Mais que le chemin est long, le voyage difficile, les ennemis et les difficultés nombreux, et qu'il faut beaucoup de foi, d'espérance, de patience, de repentance, de vigilance contre les tentations, etc. Avant que la vie en ne atteigne un tel degré. Pourtant, malgré tout cela, Christ dit à ses disciples, « Soyez donc parfaits, comme votre Père qui est aux cieux est parfait. » Les dirigeants avisaient une telle chose et l'apôtre dit, « Allons vers la perfection. » Et Christ donna un ministère pour le perfectionnement des saints, et il ne doute pas que celui qui commence l'œuvre puisse l'achever même en cette vie, et ainsi les délivrer des mains du péché, de Satan et de tous leurs ennemis spirituels, afin qu'ils puissent servir Dieu sans plus les craindre dans la sainteté et la justice devant lui. Et comme l'écrivit William Dewsbury, qui demeurait dans le royaume, « Vous devez être mis à mort quant à votre orgueil, à votre arrogance, à la corruption de votre propre volonté et à tout égoïsme, il faut que Dieu le brûle en vous. Le Saint-Esprit ne détruira et ne brûlera en vous que ce qui attirerait un feu éternel sur votre âme. Le corps du péché est une pierre d'aimant qui vous attire loin de la vie de Dieu et loin de la gloire de la croix du Christ. C'est la chair et le sang, et la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Pour l'amour du Seigneur, pour l'amour de votre âme et pour le bien de votre bonheur éternel, ne remettez pas cette œuvre, mais poursuivez-la, et elle sera menée à perfection. Voyez comment Christ se révèle en vous par le Saint-Esprit et par le feu. Dieu vous rachètera par l'esprit de jugement et de brûlement. Il ne s'agit pas de vagabonder au dehors dans vos pensées, mais vous devez savoir que Christ est en vous, à moins que vous ne soyez réprouvé s'il lui a fixé vos yeux et vos cœurs sur lui-même, et vous a fait arroser votre couche de vos larmes, s'il a brisé votre sommeil au point que vous avez crié « Je serai damné et ne viendrai jamais au salut ». Ce sera votre cri, ce fut autrefois mon cri. Oh, ne laissez pas vos yeux s'assoupir ni vos paupières prendre aucun repos. Vous trouvez ces qualifications, vous êtes en chemin, autrement vous serez comme un arc trompeur, et vous ne tiendrez jamais dans le jugement, si vous rejetez le conseil de Dieu contre vous-même, et refusez d'être crucifié avec Christ et d'être baptisé de son baptême de feu dans sa mort, vous n'aurez jamais la vie, mais c'est seulement par son baptême et par l'opération céleste de son esprit, si vous avez foi au nom de Christ, que vous serez unis à lui par un mariage en justice éternelle, le salut nous sera apporté et la vie est. Ce n'est pas une foi de notre fabrication, ni un vêtement de notre broderie, mais celle que le Seigneur nous a donnée. Ô homme ou femme heureux, qui obtient ce don de Dieu, ô qui ne perdra pas sa vie pour cette vie éternelle, qui ne mourra pas pour cette vie éternelle. Or, tout se joue dans la mort de vos propres volontés. Quand vous avez fait la volonté de Dieu, alors veillez à ce que vos propres volontés soient mises à mort, et à ce que votre maudit moi ne prenne pas les joyaux de Dieu, ses bracelets et ses ornements, pour les prodiguer au moi, afin de peindre et parer le maudit moi, et ne prenez pas les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée. Si vous êtes mort à vos propres volontés, vous êtes ressuscité avec Christ et recevrez une résurrection pour la vie éternelle. Crucifiez-le-moi, et tenez le monde pour rien, foulez-le aux pieds, lui et toutes ces choses, et comptez-les comme balayures et fumiers en comparaison de Christ que le Père a révélé comme étant notre vie, au jour de notre tristesse et de nos lamentations, au jour de notre calamité, au jour où nous avons crié « Notre espérance est perdue ». Ainsi en a-t-il été des personnes les plus saintes sur terre? Ce n'est pas par des œuvres de justice qui sont les vôtres que vous pouvez être sauvés. Christ vient pour abattre tout cela, afin que vous soyez greffés en lui et justifiés par sa grâce. N'en faites pas un sujet de discours, en disant « J'ai entendu ceci et cela », mais regardez dans vos propres cœurs, et voyez quelles œuvres célestes s'y trouvent. Qu'y a-t-il de la puissance du Seigneur Jésus qui vous a fait haïr ce monde et l'amour désordonné de l'homme, afin que vous puissiez jouir de toutes ces choses comme si vous n'en jouissiez pas? Nous ne pouvons pas, lorsque nous sommes mis à mort et crucifiés à ce monde, ne pas dire « Ma vie est en Christ », lorsque nous en venons à ne rien nous attribuer à nous-mêmes et tout à Christ. Voici une harmonie bénie, des cœurs brisés, des esprits fondus, et pourtant des âmes joyeuses de pauvres créatures qui pleuraient, soupiraient et criaient devant le Seigneur dans des lieux retirés, et pourtant se réjouissaient en Jésus-Christ. Je suis ressuscité avec Christ, je disais, mon espérance est retranchée, je me coucherai dans ta volonté, ô Dieu, fais de moi ce que tu veux, c'est dans ton bon plaisir souverain et dans ton don gratuit, que tu me donnes la vie ou que tu me la refuses. Il doit y avoir un abandon de nous-mêmes à la volonté de Dieu. Il en fut ainsi du Seigneur Jésus, et il en est ainsi de tout vrai saint de Dieu. Vous devez être humiliés comme de petits enfants, avant que le jugement ne soit ôté, et que la bonté aimante de Dieu ne soit scellée sur vos âmes. Si vous cherchez cette œuvre de Dieu, vous la trouverez. Si vous la cherchez sur vos lits, dans tous vos travaux et vos affaires, dans toutes vos positions et relations, si vous aspirez à la nouvelle naissance, vous devez user de ce monde comme si vous n'en usiez pas, et vivre une vie de mariage comme si vous n'étiez pas marié, car la figure de ce monde passe. Ce ne sont pas des notions élevées, des imaginations grandiloquentes. Résumé des principales déviations, nous disposons d'une histoire importante de la foi quake, qui peut aider à comprendre comment l'éloignement de la vérité s'est produit. La plupart des informations de cette section ont été tirées de l'ouvrage de Samuel M. Janet, History of the Religious Society of Friend, volumes 3 et 4, publié en 1867. Janet a compilé les archives de nombreux documents et journaux pour présenter cette histoire, les références de plusieurs ayant été supprimées pour faciliter la lecture. En plus des commentaires signalés, les mots entre crochets sont des ajouts au texte de Janet. Une partie des commentaires de Janet a été omise, mais aucun de ceux qui rapportent les faits des événements décrits. Ce qui suit n'inclut pas la scission Wilkinson qui eut lieu du vivant de Fox et qui est couverte dans le journal de Fox. La scission contestait l'autorité de la société à discipliner les membres dont la conduite entrait clairement en conflit avec les Écritures et les normes chrétiennes. Beaucoup furent ramenés au corps principal par un raisonnement sain et empreint d'amour, le reste se flétrit rapidement. Stephen Crisp, éminent ministre Quake, travailla dur toute sa vie à guérir plusieurs schismes, et il y a sur ce site une excellente lettre de lui, qui détaille les façons dont l'ennemi de nos âmes et de la véritable Église œuvre pour nous barrer la route du royaume et détruire la véritable Église. La scission George Keith 1681 en Amérique, George Keith conduisit un groupe de 15 assemblés à une scission, affirmant que la lumière n'était pas suffisante pour le salut, soutenant qu'une croyance dans les Écritures était nécessaire et suffisait à obtenir le salut, y compris la justice. Keith défendait donc une croyance anti-Quake, mais protestante traditionnelle, le salut instantané par la grâce. Keith devint ensuite un ministre épiscopalien qui tenta de séduire ses disciples pour les amener dans la secte épiscopale. Ils avaient fait de la foi dans le récit de la Bible la formule du salut. La plupart de ses partisans devinrent baptistes. Règle 1700-1800. Malgré les multiples avertissements de Margaret Fox en 1698-1700, les Quakers irlandais, anglais et américains avaient établi une conformité vestimentaire non écrite exigée de leurs membres. Comme Margaret Fox les en avait avertis, Ils entrèrent dans une mort spirituelle, croyant que la tenue contribuait à leur justice, glissant ainsi vers une forme du refus quaker originel des rubans superflus, des galons en or massif et des ornements peints d'épices dix. En 1752, depuis Amsterdam, Samuel Neill écrivit à Richard Shackleton au sujet des Quakers en Hollande. Il n'y a ici aucune conformité vestimentaire parmi les professeurs, ce qui est propre à la simplicité de l'Évangile. J'espère que le travail accompli pour eux, puisqu'il vient de la source de tout bien, agira ainsi avec le don en eux, pour les amener à la conscience de leur erreur. Malheureusement, l'erreur supposée des Hollandais était la poutre dans l'œil de tout le mouvement Quaker anglophone. Préfigurant le vaste mouvement américain de tempérance du Xe siècle, dont le siège était dans la ville Quake, Philadelphie, les assemblées annuelles de la société, par une série de petits pas innocents, finirent par se jeter tête baissée dans l'interdiction des boissons à la fin des années 1700. Elles firent une règle contre l'usage, par les Quakers, des boissons spiritueuses comme boissons. Cela entrait en conflit direct avec le commandement des Écritures, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats, Col 2.16. La scission irlandaise 1794 en Irlande, il s'était répandu une croyance, et en Amérique selon laquelle la Bible était erronée. Obsédés par leurs propres convictions anti-guerre, ils se persuadèrent que Moïse avait menti en disant que Dieu avait ordonné aux Juifs de faire la guerre aux païens dans la terre promise, étant absolument sûrs que leur Dieu n'aurait jamais pu demander un acte aussi mauvais que la guerre. Ils en vinrent à rejeter, ou du moins à mettre en question, la naissance virginale, les miracles et la résurrection de Jésus. Quand des ministres ou des anciens prêchant une telle doctrine furent priés de cesser de prêcher, ils démissionnèrent et furent suivis par de nombreux sympathisants. En même temps, il y eut de nombreuses démissions lorsque la discipline fut appliquée à Belfast pour 1. Avoir assisté à un mariage qui n'avait pas été soumis à examen et approbation, et 2. Pour soutien ou association avec des enfants naturels qui avaient été mariés par un prêtre. L'apostasie Gurney 1825. Joseph John Gurney avait été éduqué sous la tutelle de membres du clergé de l'Église épiscopale, et beaucoup de ses amis proches étaient recteurs et évêques, membres du Parlement et pairs du royaume. Ainsi, tout en appréciant la forme du culte silencieux et en utilisant ses « thou », il adopta et propagea la même doctrine pour laquelle Keith avait été expulsé un siècle plus tôt, une doctrine qui était exactement ce contre quoi tant de premiers Quakers étaient morts en s'y opposant. Lui et ses amis avaient obtenu le contrôle total de la hiérarchie Quake vers 1825. Ils adoptèrent le salut instantané par la croyance en Christ, la culpabilité du péché chez les nourrissons, et la Trinité, comme trois personnes distinctes, sans appui scripturaire, au lieu d'un seul esprit avec trois témoins au ciel, qui sont 1 Jean 5, 7. Que la société Quake britannique accepte de telles personnes dans la direction et souscrive à leur doctrine ne fait que montrer que la grande majorité des Quakes était indifférente ou dépourvue de guidance divine, de connaissance des croyances fondamentales de leur société ou de maturité pour reconnaître l'antithèse totale des croyances fondamentales de leur société au cours des 150 années précédentes. L'apostasie Gurney fut la cause des deux séparations suivantes qui eurent toutes deux lieu dans les tentatives des sécessionnistes de préserver la foi quake originelle. La séparation Hicksite en Amérique 1827. Elijah Hick, ministre quake américain, prétendait avoir été sauvé par la lumière. Cependant, ses prédications reflétaient de graves erreurs qui le rendaient vulnérable aux attaques et aux accusations d'hérésie. Les Quakers britanniques Gurneyites envoyèrent plusieurs ministres visiteurs en Amérique. Lorsque ceux-ci, où leurs partisans entendirent parler ou lurent les erreurs doctrinales de Hick, ils attaquèrent de plein fouet. Comme les positions doctrinales des attaquants étaient encore moins solides que celles de Hick, elles furent facilement mises au jour dans la discussion qui s'ensuivit ou dans l'échange de documents. Cela conduisit à un fossé grandissant de différences doctrinales entre ceux restés fidèles aux doctrines épiscopaliennes de Gurney et les doctrines de Hick, plus proches de la tradition Quake, mais entachées de graves erreurs. Les Quakers américains furent également rebutés par l'attaque virulente contre Hick. Ce fossé devint si contesté et si amé qu'une séparation sérieuse se produisit, avec environ 50 000 Quakers américains suivant Hick pour établir une société séparée, laissant 20 000 partisans de Gurney. La séparation fut si grave que les tribunaux civils durent partager les biens de la société. Les deux parties avaient tort dans ce conflit. La séparation Wilbur 1845, John Wilbur conduisit un groupe de 500 Quakers de la Nouvelle-Angleterre à se séparer de la société dirigée par Gurney, essentiellement pour la même raison que la séparation Hicksite ci-dessus, la croyance qu'il fallait la réforme nécessaire du cœur par la lumière pour obtenir le salut, plutôt que la croyance des Quakers Gurneyites en un salut instantané du fait de croire en Jésus. D'autres séparations eurent lieu, plus nombreuses, à New York, en Ohio et en Indiana. Ce groupe, connu sous le nom de Wilburites, s'efforça de maintenir la foi quaker telle qu'elle avait été originellement découverte par ses fondateurs. Ils fusionnèrent plus tard avec le mouvement quaker conservateur, la scission chrétienne en Amérique, 1681, affirmant que la lumière n'est pas suffisante pour le salut. George Keith était un quaker américain qui avait émigré d'Angleterre. Il avait été le partenaire de Robert Barclay dans ses débats universitaires au sujet des doctrines des Quakers à l'université d'Aberdeen. En Angleterre, il avait exercé son ministère en Hollande avec George Fox et William Penn. En Amérique, il devint instituteur. Peu après que George Keith eut quitté son école, il voyagea en Nouvelle-Angleterre, visitant des assemblées et engageant des disputes avec d'autres professeurs de religion. Étant excessivement porté à l'argumentation et s'étant livré à des spéculations sur des questions théologiques sans importance pratique, il recherchait la controverse et l'on dit qu'il donna libre cours à ce penchant d'une manière fort inconvenante. À son retour à Philadelphie, il commença bientôt à manifester dans sa conduite certains symptômes d'un esprit insatisfait et ambitieux, trouvant à redire sur ses frères de profession religieuse, pressant de nouvelles réglementations dans la société et se plaignant d'un trop grand relâchement dans l'administration de la discipline. Ses propositions n'ayant pas été acceptées comme il l'espérait, il devint encore plus véhément, accusant certains ministres, généralement estimés, de prêcher de fausses doctrines. Présent à une assemblée où William Stockdall et Thomas Fitzwater parlèrent en tant que ministres, il les accusa de prêcher une fausse doctrine, parce qu'ils présentaient la lumière du Christ comme suffisante au salut, et il déclara à Thomas Fitzwater, en présence de plusieurs amis, que lui-même ne croyait pas que la lumière fût suffisante sans quelque chose d'autre. Bien plus tard, Keith admit ses véritables opinions au sujet de quelque chose d'autre, qui était identique aux doctrines romaines et protestantes traditionnelles du péché originel, de la Trinité et de la justice imputée. Commentaire de l'éditeur du site, les différences étant, tous les hommes sont pécheurs dès le sein maternel, justifiant le baptême des nourrissons vs. Être sans péché, mais naître enclin au péché, trois personnes individuelles, la Trinité vs. trois qui rendent témoignage au ciel et qui étaient un seul esprit, et une justice imputée immédiate, salut instantané vs. Chercher le royaume des cieux et la justice de Dieu, et les effets de la grâce dans le cœur d'un individu au fil du temps, en demeurant dans la lumière et la parole vivante. Il ne peut y avoir aucun doute que Keith avait abandonné le grand principe fondamental de la Société des Amis, l'universalité de la lumière du Christ ou de la grâce divine, et sa suffisance, si on lui obéit, pour opérer le salut, tout en mettant à l'épreuve les commandements reçus au regard des interdictions des Écritures. Une autre plainte, formulée par Keith contre les assemblées trimestrielles et mensuelles, était qu'elle refusait de cautionner le livre intitulé « The Christian Faith of the People of God Called Quakers » à Rhode Island, ainsi que son impression par William Bradford de Philadelphie, qui avait été approuvé par l'assemblée ajournée dans l'école. Dans le livre de Keith, appelé « The Plea of the Innocent », il affirme que des centaines parmi les amis voient la nécessité d'une confession de foi un credo. Il déclare aussi qu'il n'en connaît aucune émanant du corps des amis et en demande la production, s'il en existe une, concernant toutes les choses nécessaires. Il admet que des exposés particuliers avaient été publiés par des amis particuliers, mais aucun par le corps des amis ou par une assemblée annuelle, à l'exception de la feuille de Rhode Island, dont il dit que « les amis d'ici s'y sont opposés ». Commentaire de l'éditeur du site, avec des points de différence apparemment mineurs, Keith, dans son orgueil et son ambition, insinua sa dissension dans le cœur des croyants simples et sans méfiance. Ces points mineurs, un credo avec la nécessité de croire au miracle des Écritures, furent ensuite progressivement élargis jusqu'à devenir exactement la fausse foi et la fausse espérance que les Quakers originels avaient combattues et dénoncées. Lors d'une réunion ultérieure, Keith avoua ouvertement les doctrines dont on l'avait accusé et qu'il avait auparavant cherché à dissimuler. Thomas Lloyd lui dit, au nom de lui-même et d'autres que Keith avait accusés, qu'il les Quakers majoritaires accusés croyaient toutes les choses écrites dans les Écritures concernant la naissance, la mort et la résurrection de notre Sauveur, ce à quoi Keith répondit précipitamment « Mais est-il absolument et indispensablement nécessaire à tous et chacun des hommes d'y croire? Car si vous ne le croyez pas ainsi, je ne vous reconnaîtrai pas comme chrétien, quand bien même vous seriez un païen pieux. » Lors d'une autre réunion, il traita le gouverneur Quaker de Pennsylvanie d'alors, Thomas Lloyd, d'homme insolent et de gouverneur pitoyable, lui demandant pourquoi il ne l'envoyait pas en prison, lui disant que son dos le démangeait depuis longtemps d'être fouetté et qu'il imprimerait et les exposerait dans toute l'Europe. Les accusations insultantes de Keith contre des individus et des assemblées continuèrent de s'accroître en virulence, jusqu'à ce qu'enfin il accusa une assemblée de ministres de s'être réunie pour couvrir des hérésies et des tromperies, et qu'il y avait parmi les Quakers plus d'hérésies damnables et de doctrines de démons que dans toute autre profession protestante. Cela ayant été consigné et lu devant lui, il ne le désavoua pas, et il dit au comité chargé de lui exposer le tort qu'il causait à la cause de la vérité, qu'il foulait aux pieds le jugement de l'assemblée comme de la boue. Des assemblées séparées furent mises en place par Keith et ses adhérents à Philadelphie, Burlington, Neshaminy et d'autres lieux, où ils prirent le nom de Christian Quakers Unfriend. Il fallut du temps, avec plusieurs tentatives pour ramener les brebis perdues au bercail, mais la réunion des ministres de Philadelphie, composée de 28 ministres Quakers, condamna ces actes, suivis de la réunion mensuelle et de la réunion trimestrielle, qui finirent par censurer Keith. Thomas Elwood, depuis la Grande-Bretagne, envoya à Keith une lettre détaillée, exposant clairement ses erreurs avec un appel à la raison, mais Keith l'ignora. Lorsqu'il fit appel à la réunion annuelle, avec une conduite scandaleuse, celle-ci aussi finit par le censurer en 1692. Il publia plusieurs écrits, condamnant les 28 ministres Quakers qui avaient initialement statué contre lui. Les écrits furent largement lus par les Quakers et exercèrent une influence considérable sur de nombreux amis, provoquant un vaste schisme. Père et fils, mari et femme, amis et parents, qui avaient habituellement adoré ensemble, tout en professant encore pour l'essentiel la même foi, étaient désormais vus se rendant à des lieux de culte différents. Quelques mois après l'exclusion de George Keith, ses partisans étaient devenus un groupe considérable en nombre. Plusieurs d'entre eux avaient été auparavant, par le corps principal des Quakers bien approuvés comme ministres, ce qui contribua à renforcer les dissides. Ils tenaient des réunions de culte à des heures fixes à Philadelphie, Burlington et d'autres lieux, au nombre total d'environ 15 assemblées. À Burlington, ils construisirent une maison de réunion, et à Philadelphie ils établirent une réunion de discipline. George Keith, George Hutchinson, Thomas Budd et d'autres officiaient comme ministres parmi eux. Ils adoptèrent un credo, se nommèrent Quakers chrétiens et publièrent un témoignage contre le corps principal de la Société des Amis, le jugeant peu sûr dans la foi. À ce moment-là, Keith était devenu si fort par le nombre d'adhérents séduits que, en 1694, il décida de faire appel de la décision contre lui à l'Angleterre, qui n'avait aucune autorité sur les sociétés américaines, hormis un avis influent. Hélas, la réunion d'Angleterre critiqua les deux parties au conflit, tout en statuant définitivement contre l'appel et contre Keith. Cliquez pour voir la décision. Commentaire de l'éditeur du site. Mais leur tentative de résoudre la question en tapant sur les doigts des deux parties ne fit que prolonger le différend, Keith restant cette fois à Londres pour recruter au sein des assemblées anglaises, afin d'ajouter à son troupeau de brebis séduites. Cela força finalement la réunion annuelle suivante à se désolidariser de lui. L'éditeur de l'autobiographie de Thomas Elwood, Joseph Wace, affirme qu'Elwood dut ensuite réfuter en Angleterre les écrits diffamatoires de Keith pendant près de 10 ans. Keith écrivit plusieurs livres critiques à l'égard des Quakers, et Elwood y répondit tous. Ainsi Keith fut une épine majeure dans le pied de la société tant en Amérique qu'en Grande-Bretagne. Avec le recul, on peut voir que la réunion annuelle aurait dû nier fermement que Keith soit Quaker immédiatement, plutôt que de lui donner une année de plus pour combattre tout en conservant l'étiquette crédible de Quaker. George Keith, s'étant attiré les bonnes grâces du clergé anglais, fut en l'an 1700 ordonné prêtre dans l'église épiscopale. Environ 2 ans après son ordination, il alla en Amérique comme missionnaire au service de The Society for Propagating the Gospel in Foreign Parts. Son objectif déclaré était de rassembler les Quakers hors du cacrisme vers l'église mère. Au cours de cette tournée, il rencontra John Richardson et Samuel Bowness, amis ministres venus d'Angleterre, qu'il mit au défi de débattre avec lui. Après leur rencontre à New York, il entreprit de poursuivre sévèrement Bowness pour des déclarations critiques envers l'Église d'Angleterre, ce qui entraîna la longue incarcération de Bowness. Quelques adhérents de George Keith en Pennsylvanie et au New Jersey le suivirent dans l'Église épiscopale. Certains revinrent et se réconcilièrent avec la Société des Amis, mais beaucoup restèrent dans la séparation. Ceux-ci, en se remettant, disait-il, à la direction de l'écriture, commencèrent à trouver de l'eau dans la commission Matt. 28-19. Le pain et le vin dans le commandement, Matt 26-26-30. La communauté des biens, les agapes, le baiser de charité, la main droite de communion, l'onction des malades pour la guérison, et le lavement des pieds des disciples, dans d'autres textes. Les Quakers chrétiens finirent par se transformer en une sorte de baptiste chrétien. On les appelait baptistes Quakers parce qu'ils conservaient encore le langage « thee et thou », la tenue style 1680 et les manières des Quakers, filtrant les moucherons tout en avalant des chameaux. Mais ils finirent par une autre sorte de transformation, en baptistes du septième jour, bien que plusieurs devinrent baptistes du premier jour et membres d'autres sociétés. Telle fut la fin de la secte qui s'était arrogé le nom de Quakers chrétiens. Au retour de George Keyes en Angleterre, il fut nommé à la cure d'Elbarton, où il officia comme prêtre de l'église établie. Ses revenus étaient bons, mais il était mêlé à de vives disputes avec ses paroissiens et montra un degré inhabituel d'avidité cléricale, allant jusqu'à une grande mesquinerie en exigeant ses dixièmes dîmes des plus indigents, et même sur des denrées bien de la description la plus insignifiante. Il remarqua, peu avant sa mort, survenue en 1714, qu'il croyait que si Dieu l'avait retiré du monde lorsqu'il était allé parmi les Quakers et dans cette profession, cela aurait été bien pour lui. Commentaire de l'éditeur du site, en Amérique, il n'y avait pas suffisamment de membres mûrs pour empêcher Keyes de devenir un ministre autoproclamé. S'il y avait un système d'approbation ou d'examen, il a échoué à contenir George Keyes. Même un projet de mariage était d'abord soumis à des amis influents, puis à l'Assemblée, avant d'être autorisé par la société. Au nom de la tolérance, on laissa Keyes aller bien au-delà du point où il aurait dû être censuré et expulsé de la société. Comme le dit William Penn, éviter les personnes mécontentes, sauf pour les informer ou les reprendre, abhorrer l'esprit de division, le péché des anges déchus et le pire péché des hommes déchus. Assurément, le plus grand échec de toute la chrétienté est que la personne inachevée, imparfaite, non autorisée par Christ, dans son orgueil et son ambition, présume être digne de prêcher. Courir devant son guide, prêcher et enseigner prématurément, l'une des plus grandes tentations offertes par Satan assure la destruction de cette personne elle-même ainsi que la destruction de tous ceux qui l'écoutent. Extrait de tout ministère, Teachers and Preachers, le maître c'est Christ, vous êtes un élève aveugle. Si l'élève commence à enseigner avant que le maître ne l'y ait autorisé, alors l'élève aveugle croit qu'il voit et qu'il est supérieur au maître. Luc 6, 39, 40. Vous devez attendre que le maître vous déclare prêt à enseigner, ou avec encore plus de formation, prêt à prêcher et prêt à le remplacer. Vous devez attendre qu'on vous dise quoi faire et quand le faire. Si vous enseignez ou prêchez maintenant, d'où vient votre autorité? Vous dites, d'un collège ou d'une université, ou de votre organisation religieuse, d'où vient leur autorité? Jésus a dit que vous devez être remis d'aplomb, c'est-à-dire autorisé à enseigner ou à prêcher par Jésus lui-même, restauré dans l'image divine de Dieu, comme Adam avant la chute, réajusté et perfectionné. Luc 6, 39, 40. Sinon, vous revendiquez la supériorité sur lui en enseignant sans son autorité explicite et son entraînement personnel, de lui à vous. Sans cela, en enseignant ou en prêchant, Jésus dit que vous vous estimez, vous un élève, supérieur à lui astérisque le maître. Et cette autorisation d'être remis d'aplomb par Christ ne vient pas d'un ressenti, de porte qui s'ouvre, de vos désirs, ou de votre opinion, elle doit venir après la perfection, et par des paroles prononcées par Christ directement à vous, et entendues par vous, qui vous disent spécifiquement quoi faire et quand le faire. Une telle autorisation vient de lui directement et spécifiquement, vous l'entendez dire, « Tu es maintenant un maître » ou « Prêche la repentance avec la rémission des péchés ». Tant que votre esprit n'est pas renouvelé par la repentance jusqu'à la pureté, par la grâce transformatrice de Dieu, vos prédications et enseignements viennent de l'esprit charnel, et l'esprit charnel est inimitié contre Dieu. Rome 8, 7. Tant que votre esprit n'a pas été détruit et remplacé par l'esprit du Christ, vos paroles sont sans vie et parlent depuis la nature de la mort. Vous pouvez être un grand orateur public recevant les louanges des hommes, mais les faux prophètes d'autrefois aussi. Luc 6, 26. Pour en savoir plus sur ce sujet, voir Fox Ministry, Teachers and Preachers. Astérisque Jésus ne parlait, ne jugeait et n'agissait que lorsqu'il en recevait l'ordre spécifique de Dieu, il ne faisait rien par sa propre décision. Si vous parlez et ou agissez pour Dieu sans être spécifiquement mandaté pour chaque parole et chaque action, vous prétendez essentiellement que vos propres paroles et vos propres actes sont supérieurs à ce que Jésus aurait pu dire et faire s'il avait pris ses propres décisions quant à ce qu'il fallait dire et faire. Même Jésus ne jugeait, ne parlait et n'agissait pas sans l'impulsion spécifique de l'Esprit. De moi-même je ne puis rien faire, je juge selon ce que j'entends, Jean 5, 30, tout ce que je le dis comme le Père me l'a dit. Jean 12, 49, 50, le Fils ne peut rien faire de lui-même de sa propre initiative, mais le Fils ne peut faire que ce qu'il voit faire au Père, Jean 5, 19. Témoigner, prêcher ou enseigner sans les impulsions spécifiques du Saint-Esprit, c'est s'estimer au-dessus de Jésus. Tant que vous n'êtes pas purifié et que l'Esprit ne parle pas à travers vous, votre témoignage, votre enseignement et votre prédication n'atteindront pas la partie sainte de chaque personne, et votre croissance sera retardée ou arrêtée. L'enseignement est la raison pour laquelle les gens ne peuvent pas entendre, parvenir à la pureté et entrer dans le royaume. Ils sont en captivité spirituelle parce qu'ils conduisent les autres en captivité spirituelle en enseignant des erreurs. Extrait de la lettre N83 de George Fox. Et amis en tout lieu, lorsque certains vont au dehors, au passage examinez-les, où vont-ils et quelles sont leurs intentions, et s'ils ne peuvent en rendre bon compte, exhortez-les à revenir en arrière, et à demeurer fidèles dans leur place jusqu'à ce qu'ils voient leur voie rendue claire. S'il est certes déconseillable qu'un credo s'impose à la société dans son ensemble, reconnaissant que beaucoup de personnes inachevées peuvent s'opposer à se conformer à des croyances qu'elles ne comprennent pas ou dont elles n'ont pas la certitude, une déclaration périodique imposée d'adhésion à un credo, comme le Statement of Belief de Fox et Burroughs, parmi les anciens et les ministres, constituerait un frein important à l'erreur. Et, comme pour ceux qui cherchent à se marier, l'intention d'une personne d'assumer nouvellement la fonction de ministre, d'ancien ou d'enseignant pourrait être soumise à la recherche, par une assemblée, de la direction du Seigneur, avant que l'autorisation ne soit donnée. L'évolution de l'opposition à l'alcool, commentaire de l'éditeur du site, George Fox ne parla jamais contre l'alcool, seulement contre l'ivrognerie et contre les tenanciers de tavernes qui servaient trop d'alcool à leurs clients, encore l'ivrognerie. Dans son journal, il fait plusieurs références à son usage du vin et de la bière comme nourriture en prison, et lorsqu'il était malade, cela étant la seule chose qu'il pouvait garder, il parla de l'usage de l'alcool pour la santé. Dire à quelqu'un de ne pas consommer d'alcool reviendrait à critiquer quelqu'un sur le manger ou le boire, ce qui est une violation claire de la liberté chrétienne, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats, Col 2:16. Malheureusement, avec de bonnes intentions, cela changea, particulièrement en Amérique, entraînant non seulement la perte de la liberté individuelle, mais une dérive vers une forme de religion avec des règles sur la boisson. Ci-dessous, l'histoire de ce changement étape par étape. Parmi les nombreux sujets d'amélioration morale qui attirèrent l'attention des amis, où ils se révélèrent être les pionniers de la réforme, leur témoignage contre l'usage des boissons spiritueuses comme boissons mérite d'être signalé. Leur examen de la question fut d'abord suscité par l'observation des effets ruineux résultant de la vente de rhum aux Indiens, et en l'année 1685, soit 3 ans après le débarquement de Penn, la réunion annuelle de Pennsylvanie du New Jersey adopta la minute suivante. Cette réunion s'accorde unanimement et donne pour jugement qu'il n'est pas conforme à l'honneur de la vérité pour quiconque en fait profession de vendre du rhum ou d'autres liqueurs fortes aux Indiens, parce qu'ils ne les utilisent pas avec modération. En 1686 et 1687, le conseil fut réitéré, et la dernière année, la clause suivante fut ajoutée, et pour prévenir plus efficacement cette mauvaise pratique, nous conseillons que notre témoignage soit inscrit dans chaque livre de réunion mensuelle, et que chaque ami appartenant à la dite réunion y souscrive. Il n'y a certainement rien de mal à cette étape. Il a été remarqué que cette souscription portée sur les registres des réunions mensuelles est le plus ancien engagement de tempérance connu. En l'année 1726, l'Assemblée annuelle de Pennsylvanie et du New Jersey publia un avis contre la coutume pernicieuse de donner du rhum et d'autres alcools forts pour exciter ceux qui enchérissent aux ventes aux enchères, afin de les amener à augmenter le prix, ce qui, outre l'injustice de l'artifice, est très scandaleuse et conduit à une grande intempérance et au désordre. Il fut donc ordonné que, si des membres de la société se rendaient coupables de cette pratique, ils seraient traités comme des personnes indisciplinées. Dans le préambule de la loi de Pennsylvanie interdisant l'usage du rhum et d'autres alcools forts aux enchères, le langage est presque le même, montrant d'où il a été tiré. À partir de cette date, pendant une longue suite d'années, les diverses assemblées annuelles des amis en Amérique maintinrent continuellement vivant le sujet de la tempérance et publièrent très fréquemment des avis à ce propos. Au début, elles mirent en garde leurs membres contre l'usage immodéré des spiritueux et découragèrent leur distillation à partir de grains, mais pendant longtemps la distillation des fruits fut considérée comme justifiable en raison de leur nature très périssable et de la nécessité supposée de les convertir en quelque chose de profitable. Toujours aucun problème. À mesure que les effets funestes résultant de l'usage des boissons enivrantes comme boissons devinrent plus pleinement connus et pris en considération, les amis estimèrent de leur devoir religieux de s'abstenir de l'usage ordinaire des spiritueux, de leur vente ou de leur distillation, ainsi que de moudre du grain ou d'en vendre en vue de la distillation. L'usage des spiritueuses au temps des moissons fut longtemps jugé nécessaire, mais dans la dernière partie du XVIIe siècle, l'attention de nombreux amis s'étant sérieusement portée sur le sujet, ils jugèrent qu'il leur incombait de cesser cette pratique, comme étant la source de beaucoup de mal. Leur exemple fut suivi par d'autres et, au bout de quelques années, étant devenu général dans toute la société, l'interdiction fut adoptée par les assemblées annuelles et intégrée aux avis adressés à leurs membres. Comme dans le cas du témoignage contre l'esclavage, ainsi en ce qui concerne l'usage des spiritueux comme boisson, le progrès de la société fut graduel, avançant pas à pas à mesure qu'il y était capable de le supporter, sans rupture grave de l'unité. Commentaire de l'éditeur du site, ainsi fut établie la règle contre la boisson, en conflit direct avec l'Écriture, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des jours de sabbat, Col 2:16. Et elle fut établie dans la subtilité du serpent, un petit pas à la fois, jusqu'au dernier pas qui semble si sain, mais qui entraîne une perte pour tous. Janet, lui-même quake du XIX siècle, parlait avec une grande fierté de l'exemple merveilleux et du leadership de la société dans l'établissement de l'interdiction de l'alcool, un pas de géant pour l'humanité. Mais aussi sainte qu'ils aient pensé cette interdiction, elle ne l'était pas, elle violait clairement les instructions du Nouveau Testament et les enseignements de leur fondateur. Le sujet n'est pas l'ivrognerie, c'est l'usage de l'alcool sans ivresse. Si personnellement, vous préférez vous abstenir d'alcool, très bien, mais ne prêchez pas l'abstinence aux autres et n'imposez pas de règles aux autres. Et bien sûr, quoique le Saint-Esprit puisse vous instruire, concernant votre usage personnel de l'alcool, comme on l'indiquerait à un buveur abusif, obéissez, que cela demeure une affaire de conscience. L'abstinence d'alcool ne fut pas la première règle. En 1670, Fox commença à exhorter les propriétaires d'esclaves Quakers à rendre la liberté à leurs esclaves après des années de service. William Penn supplia en outre les Quakers d'abandonner leurs esclaves. Penn et les Quakers de Pennsylvanie firent adopter une résolution anti-esclavagiste dans leur assemblée coloniale. Penn affranchit ses esclaves. Les premiers Quakers laissèrent la question soit à la législation séculière, soit à la conscience individuelle, pas à une règle d'Église. Mais en 1761, les Quakers d'Angleterre créèrent une règle selon laquelle personne ne pouvait posséder des esclaves tout en continuant à être Quaker. En 1825, aux États-Unis, l'esclavage devint l'obsession des Quakers, attisant la haine de tous les propriétaires d'esclaves, certains refusant même de toucher quoi que ce soit fait de coton, produit du travail servile. L'esclavage devint dans leur pensée le plus grand mal et le plus grand péché. Les Quakers du Nord regardaient avec dédain leur homologue du Sud, propriétaire d'esclaves. Beaucoup de Quakers prirent même les armes et combattirent le Sud pendant la guerre de sécession, sans censure de leurs frères, lesquels laissèrent jouer leur conscience dans le fait de combattre, tout en refusant la conscience de leurs frères du Sud. Certes, je déteste et je déplore l'esclavage, comme le reste de la civilisation occidentale du XIX siècle, mais ce n'est pas la question de l'Église. La question de l'Église est la conscience contre les règles. La question est, faisons-nous confiance au Christ pour convaincre et reprendre à propos de pratiques extérieures qui ne sont pas définies comme péchés dans les Saintes Écritures, ou établissons-nous des règles restrictives? Les règles, comme remède, peuvent être pires que la maladie. En fait, l'obsession des Quakers américains pour l'esclavage a scellé le cercueil du mouvement Quaker, en consolidant leur focalisation extérieure sur l'action sociale plutôt que la focalisation intérieure sur le renoncement à soi. Ils ont choisi de combattre le mal au lieu de rechercher la grâce purifiante de Dieu, afin de devenir un instrument de la volonté de Dieu, plutôt que de leur propre désir. Aussi saintes que puissent paraître nos actions sociales charnelles, elles ne font que gonfler notre orgueil, nous éloignant davantage de la volonté de Dieu. Le schisme irlandais, 1794-1808, un groupe qui prétendait que les Écritures n'étaient ni saintes ni même exactes. La Société des Amis en Irlande était depuis de nombreuses années en déclin. Non seulement elle diminuait en nombre, mais son état spirituel était loin d'être satisfaisant. Dès l'année 1762, James Gough, qui avait résidé dans ce pays 24 ans et s'apprêtait à retourner en Angleterre, exprima dans son journal un sentiment douloureux devant le déclin dominant. Avoir évoqué les hommes et les femmes dignes d'une génération antérieure, qui avaient maintenu leur rang dans la justice, il poursuit ainsi, parmi leurs survivants d'un côté un nombre considérable conservait l'ancienne simplicité de langage et d'habit, et rigidement censeur de toute déviation, s'en faisait valoir comme si c'était le seul critère et un signe du discipulat, tandis que leur cœur s'en allait après leur cupidité, dans une poursuite avide et une thésaurisation sordide des richesses temporelles, ils étaient tombés dans une faim. D'un autre côté, une grande masse de jeunes et d'autres, grandissant dans l'indulgence de soi, dans la conformité au monde, et se précipitant tête baissée dans les tentations de l'époque. Pourtant, au milieu de cette inondation de négligence et de révolte, il demeure, en la plupart des lieux, un certain nombre d'amis au cœur sincère, quelques ministres et anciens dignes, mais au cours des 20 dernières années, il y a eu une grande altération empire. En l'année 1794, lors de la réunion nationale semestrielle tenue à Dublin, un comité nommé pour visiter les réunions de la province de Munster fit rapport qu'il avait accompli ce service et trouvé l'état des choses dans cette région généralement très bas. Toutefois, ils furent consolés en trouvant un reste préservé en divers endroits, attaché à la loi et aux témoignages. La réunion, prenant en considération l'état de la société dans toute la nation et étant peinée des nombreuses déficiences apparentes, nomma un comité pour visiter les réunions de la province de Leinster. À la réunion semestrielle suivante, au printemps 1795, le comité rapporta avoir trouvé l'état de la société en Leinster, généralement douloureusement bas, trop nombreux étant installés à l'aise dans leur possession, néanmoins quelques-uns, çà et là, s'employaient à un travail honnête pour le bien de la cause. Ils eurent aussi la perspective encourageante que certains, parmi les jeunes, se joignaient dans une certaine mesure aux visitations divines de la vérité sur leurs esprits. Lors d'une réunion des ministres et anciens de la réunion mensuelle de Colo, au troisième mois 1767, Abraham Shackleton de Ballitore, ancien influent de cette réunion, étant greffier, refusa de lire les avis aux ministres et anciens publiés par l'Assemblée annuelle, et qu'il était ordonné de lire une fois par an. Il énonça les motifs de ses objections comme suit, que, puisqu'il était admis que les ministres dûmes qualifiés parmi nous parlent par la révélation immédiate et directe du Saint-Esprit, il doit être hautement impropre de leur prescrire ou d'établir des règles pour limiter leur ministère quant au mode, au contenu, au temps, que les avis proposés à la lecture avaient une tendance directe à produire cet effet, et que recommander ces avis devait donc être regardé comme limitant l'action de l'esprit et enseignant pour doctrine les comment. Astérisque, en conséquence du refus du greffier de lire les avis, ils furent lus par une membre de cette réunion, bien qu'elle aussi les désapprouvât, et il semble que d'autres membres de la réunion choisie aient partagé ces objections. Afin de donner une idée de l'esprit qui commença à prévaloir dans cette réunion, les excellents avis auxquels certains d'entre eux s'opposaient sont ci-dessous reproduits. Astérisque, si un ministre était « dûme qualifié » par Dieu au lieu de l'être seulement par un corps quoique immature, les avis ci-dessous ne seraient aucun obstacle. Mais malheureusement, l'objection de Shackleton visait ceux qui n'étaient pas « dûme qualifié » par Dieu, seulement « dûme qualifié » par des quoiques immatures marchant selon les pensées de leur esprit et de leur mauvais cœur. Avis aux ministres et aux anciens y. Que tous prennent garde à l'usage de préambules inutiles et à ne pas mettre trop de poids sur leurs témoignages en affirmant trop positivement un mouvement divin, la puissance baptisante de la vérité accompagnant les paroles étant la vraie preuve, y. Que tous veillent à ne pas citer de travers ni appliquer mal les saintes écritures, et qu'ils les lisent fréquemment, y. Que les ministres prennent garde à la manière dont ils abordent des points controversés dans leurs témoignages, ou qu'ils ne formulent pas d'objections auxquelles ils ne répondent pas clairement, ou qu'ils ne fassent pas d'attente répétée d'en venir à une conclusion. Yves, que tous prennent garde de nuire aux réunions par des ajouts inutiles vers la fin, alors que la réunion avait été laissée en bon état auparavant. V. Que tous évitent des tons, sons et gestes inconvenants, ainsi que toute affectation, choses qui ne conviennent pas à la gravité chrétienne. V. Les hommes et les femmes sont mis en garde contre le fait de voyager comme compagnons dans l'œuvre du ministère, afin d'éviter toute occasion d'offense. V. Que les amis qui exercent le ministère prennent garde à ne pas nuire au service les uns des autres dans les réunions, mais que chacun ait une tendre considération pour autrui. Que rien ne soit offert dans une vue de popularité, mais dans l'humilité et la crainte du Seigneur, vie. Que nul ne court selon sa propre volonté pour troubler un peuple dans son culte, ni ne présume prophétiser selon son propre esprit contre une nation, une ville, une cité, un peuple ou une personne, x. Que les ministres, lorsqu'ils voyagent au service de la vérité, veillent à ne pas rendre leur visite pesante ni l'évangile onéreux. X. Que tous se gardent d'une trop grande familiarité qui, faussant le jugement et produisant un attachement excessif, tend à nuire. XI. Que les ministres aient soin de garder toute leur conduite sans tache, étant des exemples de douceur, de tempérance, de patience et de charité. XI. Et enfin, puisque la prière et l'action de grâce sont une partie particulière du culte, elles doivent être accomplies en esprit et en vérité, avec une juste intelligence assaisonnée de grâce. Que les ministres prennent donc garde à la manière et au contenu de ce qu'ils offrent en prière, évitant beaucoup de paroles et les répétitions, et que tous prennent garde de répéter trop souvent le nom élevé et saint de Dieu, ou ses attributs, par une longue conclusion. Que la prière ne soit pas non plus une manière formelle et habituelle de conclure une réunion, ni sans un sentiment profond de l'influence divine. Commentaire de l'éditeur du site. Si leur ministre avait été en esprit et en vérité, aucun de ces avis ne serait nécessaire, ce qui montre que les personnes émettant l'avis étaient A. non soumises au contrôle de l'esprit, et B. ignorantes des conseils constants de leurs fondateurs sur le même sujet. Les fondateurs, écrivez constamment, à moins d'être poussé par l'esprit à parler, demeurez silencieux, et si vous avez un enseignement reçu par le passé, qui semble approprié à ajouter à la réunion, assurez-vous que la lumière est levée, que vous êtes dans l'esprit, avant de répéter l'enseignement. Dans les réunions que George Fox a établies, avant de parler il demeurait souvent silencieux, parfois pendant la majeure partie d'une heure, se tenant simplement debout en silence, attendant que l'esprit prenne le contrôle de l'assemblée et lui donne la permission de parler. Lorsqu'il parlait, c'était de l'esprit avec puissance. Comme George Whitehead l'énonce si bien dans son A Christian Progress, ainsi, garder le silence devant le Seigneur et s'approcher de lui dans une véritable disposition silencieuse d'esprit, pour entendre d'abord ce que le Seigneur nous dit avant que nous parlions aux autres, qu'il s'agisse de jugement ou de miséricorde, est la voie pour renouveler nos forces et pour être ses ministres, ne parlant aux autres que ce qu'il nous a d'abord dit. Aussi le peuple y était véritablement attentif, s'il voulait sérieusement considérer cela, alors il ne courrait pas après, ni ne suivrait ceux qui sont ses ministres, prêtres ou prophètes, qui sont sortis prêcher quand Dieu ne les avait jamais envoyés, et qui disent « Ainsi a dit le Seigneur quand Dieu ne leur a pas parlé, et qui ne profitera nullement au peuple ». Ces avis ont sans doute été suggérés par des ministres expérimentés, qui avaient vu et senti la nécessité du soin et de la prudence qu'ils prescrivaient. Ne peut-on pas dire que, de nos jours, leur stricte observance par les ministres partout serait parfois un grand soulagement pour leurs auditeurs? La position prise par Abraham Shackleton semble impliquer que des ministres astérisques dûm qualifiés sont infaillibles, mais toute l'histoire de l'Église chrétienne prouve le contraire, seulement si vous considérez les apostats comme faisant partie de l'Église chrétienne. Ceux qui ont été dûm appelés et qui, par moments, sont favorisés d'une mesure de la Sainte Onction, devraient toujours se souvenir que nous portons ce trésor dans des vases de terre, et à moins que le vase ne soit tenu propre, le don céleste perdra une partie de son efficacité. Les meilleurs des ministres peuvent parfois avoir besoin du conseil et de la mise en garde de leurs amis, car bien que l'esprit de vérité soit infaillible, l'homme est toujours faillible et par conséquent susceptible de mal comprendre ses directives, à moins qu'il ne demeure continuellement vigilant. Les objections formulées contre la lecture des avis imprimés s'appliqueraient tout aussi bien à un avis ou à une mise en garde offert verbalement par un membre ou un ancien, et le résultat de cette doctrine, si elle était admise, serait de conférer au ministre une autorité irresponsable dans l'Église. Astérisque commentaire de l'éditeur du site, pourtant, il n'y avait aucun système de qualification. Toute prédication, issue de l'esprit charnel, ne serait pas reconnue avec certitude comme telle, à moins que les auditeurs ne soient suffisamment mûrs dans l'esprit pour avoir le discernement nécessaire. Ce fut le problème ruineux. Tout le monde aurait été mieux avec l'absence de ministre, à écouter silencieusement sans qu'aucune parole ne soit prononcée, jusqu'à ce que quelqu'un soit suffisamment mûr et appelé par le Christ lui-même, avec des instructions précises pour devenir ministre. Un ministre, qui est par moments favorisé de la Sainte Onction, est toujours soumis à la faillibilité, n'est pas encore prêt à exercer le ministère ni à surveiller. Le premier des avis, qui met en garde les ministres contre le fait de soutenir présumé trop positivement un mouvement divin, mérite bien l'attention, car si la puissance baptisante de la vérité accompagne les paroles, aucune autre preuve n'est nécessaire, mais si cette vraie preuve fait défaut, les plus hautes professions d'autorité divine ne seront d'aucun secours. La référence faite dans le dernier des avis à une juste intelligence assaisonnée de grâce est conforme au langage de l'apôtre Paul « Je prierai par l'esprit et je prierai aussi avec l'intelligence ». Il apparaît que l'opposition ressentie à l'égard des avis aux ministres et aux anciens ne se limitait pas à la réunion choisie de Colo, car à la réunion trimestrielle suivante des ministres et anciens, tenue à Mount Melek, il fut rapporté que dans deux autres réunions choisies de ce trimestre, la lecture de ces avis avait également été désapprouvée, et que les objections formulées étaient pour l'essentiel les mêmes. Plusieurs membres de la réunion trimestrielle choisie furent très mécontents de cette opposition à une pratique de longue date qui avait été prescrite par l'Assemblée annuelle tenue à Londres, ainsi que par la réunion nationale semestrielle d'Irlande, mais les objections aux avis ayant été portées par des membres actifs et influents, il fut jugé opportun de ne pas poursuivre davantage la question à ce moment-là. Lors de la réunion trimestrielle de discipline générale pour la province de Leinster, qui suivit immédiatement, un autre sujet de dissension fut soulevé, ayant pris naissance à Colo et provenant sans doute des mêmes individus. Lors de la lecture de la réponse à la quatrième requête, qui concerne en partie la lecture fréquente des Saintes Écritures, il fut observé que, dans la réponse de la réunion mensuelle de Colo, le mot « saint » avait été omis. Cette omission suscita une vive émotion, et l'on s'enquit immédiatement de sa cause. L'objet de cette enquête était que l'esprit de vérité, intérieurement révélé dans le cœur de chaque homme, est le seul qui puisse et qui veuille conduire ses adeptes dans toute la vérité, qu'une disposition s'était dernièrement manifestée à perdre de vue ce principe fondamental de la société en attachant une valeur indue aux Écritures, et que les distinguer par le terme saint a tendance à les exalter à nos yeux aussi, ô que l'Esprit de vérité lui-même. Il fut en outre déclaré que, bien que de nombreuses parties des Écritures soient véritablement excellentes, d'autres parties sont contestables. Ces remarques causèrent une grande peine et furent généralement désapprouvées. Les objections formulées contre les Écritures et contre l'usage du terme saint appliqué à celles-ci fournissent une preuve douloureuse que l'esprit humble, ferveur et dévotionnel qui caractérisait les premiers amis avait été remplacé par une disposition critique et spéculative, qui ne peut jamais gagner des âmes à Dieu ni édifier une société religieuse, mais qui au contraire, en introduisant des disputes sur des points non essentiels, est bien propre à ravager. Au sujet de l'expression « Sainte Écriture », on fit observer qu'elle fut appliquée aux Écritures par l'apôtre Paul et qu'elle visait sans doute à les distinguer de tous les autres écrits, parce qu'elle traite principalement de choses sacrées ou spirituelles. Le même terme était appliqué par les Juifs à leurs temples et à ses vases, à leurs autels et à tout ce qui était lié à leur religion. On peut le considérer, en un sens, comme un terme technique dont l'usage est bien compris et exempt de toute tendance à la superstition. Les preuves abondent pour montrer que les premiers amis, bien qu'ils écrivaient souvent par sentiment de devoir religieux et qu'ils croyaient être parfois aidés par la grâce divine, ne présumèrent pas mettre leurs écrits au niveau des Écritures, et la société, à aucun stade de son histoire, n'a donné le moindre encouragement à de telles prétentions. Commentaire de l'éditeur du site, cette affirmation de l'auteur Janet est absurde. George Fox et nombre des premiers Quakers proclamèrent constamment et hautement qu'ils étaient dans le même esprit que les apôtres. Puisque l'Esprit a écrit les Écritures par les mains des prophètes et des apôtres, pourquoi les écrits de l'Esprit seraient-ils moins importants au XVIIIe siècle ou au XXe siècle? Comme Janet le confirme, en 1867 les Quakers avaient perdu confiance dans la mesure de leur fondateur en Christ, manifestement à cause de l'orgueil dans leur propre opinion divergente, soit par ignorance des prétentions de leur fondateur, soit par croyance que leur fondateur était dans l'illusion. Sans les écrits de Fox, Haugill, Burroughs, Whitehead, Parnell, Pennington, etc. Et les Écritures sont facilement mal comprises, en particulier lorsque le reste du monde chrétien en déforme totalement et constamment le sens. Cette sous-évaluation des écrits des premiers amis a contribué au déclin des Quakers en, un ignorant des compréhensions pondéreuses des Écritures, avec leur sens véritable soigneusement expliqué, de les laissant sans la compréhension que, bien que l'Esprit fût leur source primaire de foi et de grâce, la véritable compréhension des Écritures n'entrerait jamais en conflit avec aucune révélation de l'Esprit, et qu'elle constituait donc un garde-fou contre des imitations trompeuses des instructions de l'Esprit. George Fox exhorta les amis à traduire les écrits Quakers dans d'autres langues et à les envoyer dans ces pays. Fox publia des livres à ses propres frais. À sa mort, Fox laissa des fonds pour la poursuite des publications des premiers écrits Quakers. Déconsidérer les écrits des premiers Quakers est une grande erreur et contribue en soi de façon majeure au départ des Quakers hors de la vérité. Dans une prophétie du Seigneur par Mary Haugill, le Seigneur dit « Ils laisseront consigner une déclaration plus claire et plus céleste que mes serviteurs n'en ont laissé auparavant, et elle demeurera pour les âges et les générations à venir, afin qu'on voit comment Dieu s'est manifesté à son peuple en un jour de grande souffrance. » Les écrits de ses premiers amis documentent clairement le chemin et les écueils du parcours spirituel réussi vers l'union avec le Christ et l'entrée dans son glorieux royaume de Dieu. À l'Assemblée annuelle nationale, tenue à Dublin au printemps 1798, il fut déclaré qu'il y avait lieu de craindre qu'une disposition à sous-évaluer les Écritures et à produire un schisme gagnait du terrain dans la société, et qu'en conséquence un comité fut nommé pour s'enquérir de l'état de la société sous ses aspects et d'autres. Il est évident que, dans tous les corps organisés, et particulièrement dans les églises chrétiennes, il doit y avoir certains points d'accord jugés essentiels, tandis que, sur d'autres points de moindre importance, on peut permettre une diversité considérable d'opinions. Dans la société des amis, dès ses débuts, trois points furent principalement mis en avant, la révélation immédiate, la divinité du Christ et l'authenticité des Écritures. À l'égard de la dernière de ces doctrines, on peut observer que les amis tenaient les écrits sacrés, subordonnés à l'esprit de vérité, duquel ils tirent toute leur excellence et leur certitude, et dans l'interprétation de ces écrits, il permettait une diversité astérisque considérable de sentiments. Dans l'épître imprimée de l'Assemblée annuelle de Londres, publiée en 1728, on trouve le passage suivant. Puisque les Saintes Écritures sont le moyen extérieur de nous transmettre et de nous conserver un récit des choses les plus certainement à croire concernant notre Seigneur Jésus-Christ venu en chair et l'accomplissement des prophéties qui s'y rapportent, Nous recommandons donc à tous les amis, en particulier aux anciens dans l'Église et aux chefs de famille, qu'ils impriment, tant par l'exemple que par le conseil, dans l'esprit des plus jeunes, une estime respectueuse de ces écrits sacrés, et qu'ils les exhortent à les lire fréquemment et à les méditer, et qu'en des... Et nous recommandons cela comme le moyen le plus efficace de créer et d'établir dans leur esprit une ferme croyance dans la doctrine chrétienne en général, ainsi que dans la nécessité de l'aide et du secours des opérations du Saint-Esprit de Dieu dans le cœur des hommes en particulier, contenu dans ce très excellent livre, la Bible, et de les préserver d'être souillés par les nombreuses notions et principes pernicieux contraires à une saine doctrine, qui sont en ce temps si répandus avec empressement dans la nation, au déshonneur de la prof. Astérisque, commentaire de l'éditeur du site. Dans ce qui précède, l'Assemblée annuelle de Londres recommande de méditer les Écritures, ce qui est une totale perte de temps qui pourrait être mieux employée à attendre le Seigneur dans un silence humble. Déjà les Quakers avaient perdu de vue les vastes ouvrages doctrinaux de George Fox, révélant et expliquant l'essentiel de toute vraie doctrine chrétienne, et une diversité considérable d'interprétations encouragées ou permises, comme l'auteur Janet l'a déclaré juste avant la citation ci-dessus, ne fait qu'encourager la désinformation et de fausses compréhensions doctrinales. Il est évident qu'Abraham Shackleton et d'autres anciens qui partageaient son sentiment ne pouvaient imprimer dans l'esprit des plus jeunes membres une estime respectueuse des écrits sacrés, car ils ne ressentaient pas eux-mêmes cette estime. N'étant pas en unité avec la société sur ce point, ils étaient disqualifiés pour la charge d'ancien et auraient dû être relevés de cette fonction. Il ne s'ensuit pas, toutefois, comme conséquence nécessaire, qu'ils auraient dû être exclus de l'adhésion, car il semble avoir été admis que leur conduite était circonspecte et exemplaire. Dans la nomination des anciens et des surveillants, comme dans la reconnaissance d'un don dans le ministère, il convient d'avoir égard à ces qualités qui favoriseront l'harmonie et la santé spirituelle du corps. Il est évident qu'aucun corps organisé, civil ou religieux, ne devrait nommer à ces fonctions des personnes dont les sentiments avoués s'opposent à ces dispositions constitutionnelles. Outre les causes de dissension déjà rapportées, un certain nombre de membres étaient mécontents de la conduite et des services religieux de certains qui étaient reconnus comme ministres. Parmi eux, David Sand, de l'État de New York, alors en visite religieuse en Irlande, était l'un de ceux dont le ministère était approuvé par une partie dans les réunions et sévèrement censuré par une autre. Certains de ceux qui dissentaient de ses doctrines et désapprouvaient son ministère exprimèrent leur dissentiment en refusant de se lever ou de se découvrir la tête lorsqu'ils se livraient à une supplication publique. Leur refus étant contraire à l'avis de l'Assemblée annuelle, publié en 1723 et intégré au livre de discipline, fut considéré comme une offense requérant l'attention de la réunion mensuelle. Sur ce fondement, des visites disciplinaires furent effectuées, au nom de la réunion mensuelle de Dublin, auprès de 5 de ses membres, dont l'un était ancien et un autre surveillant. Ces deux derniers furent démis de leurs fonctions, et une minute fut adoptée par la réunion stipulant qu'aucun de ses amis ne devrait être nommé à aucun service dans la discipline de la société. John Barrington, l'un des 5 ainsi disqualifiés, cessa ensuite de fréquenter les réunions et fut exclu. William Barrington, de Dublin, fut exclu pour avoir refusé de se soumettre aux règles de la société, principalement en refusant de se lever et d'ôter son chapeau dans les réunions de culte pendant la prière publique. Thomas Bewley, de Dublin, renonça à sa charge d'ancien en l'année 1799, donnant pour motif qu'il était mécontent des procédures rigoureuses des amis de la réunion choisie d'abord, puis de la réunion mensuelle, contre certaines personnes de caractère estimable, qui pensaient avoir raison de ne pas reconnaître le ministère de David Sand, et restaient assises tandis qu'il était engagé dans la prière publique. L'ensemble des procédures contre ses amis étaient désapprouvées par lui et, par conséquent, il ne souhaitait pas conserver sa place dans la réunion choisie, dont les membres différaient de lui de manière si notable quant aux sentiments, et depuis lors, il cessa presque d'être actif dans la discipline. Comme David Sands avait, l'année précédente, été accueilli chez Thomas Bewley durant une maladie de près de 10 semaines, on peut en déduire qu'ils étaient, ou avaient été, des amis personnels. Susanna et Mary Bewley, sœurs de Thomas, Lydia, l'épouse d'Abraham Shackleton de Ballytor, et Abigail Roughton de Corlow, toutes anciennes, renoncèrent à leurs fonctions, et les deux premières abandonnèrent leur appartenance. L'opposition à David Sand semble avoir été principalement, sinon entièrement, limitée à ce qui dissentait, sur des points subtils de doctrine et de discipline, du sentiment dominant du corps. Il y a lieu de croire que sa manière d'agir dans ce moment critique ne fut pas toujours courtoise ni judicieuse, mais il existe des preuves que, parmi les amis en général, il était encore estimé comme ministre de l'Évangile. William Savery, qui se trouvait en Irlande durant une partie du temps où David Sands y séjourna, assista avec lui à un certain nombre de réunions et mentionne particulièrement dans son journal une réunion fixée à Koch, dans laquelle il dit « David Sand porta un bon témoignage et clôtura la réunion par la prière. Je crois que, par miséricorde, la vérité dominait, le peuple était très calme et attentif, dit-on le plus qu'on s'en soit jamais souvenu à Koch dans ses réunions mixtes. » À Waterford, en Irlande, William Savery eut un entretien avec Abraham Shackleton, comme on le rapporte dans les extraits suivants de son journal, à la date du 1er mai 1798, 8. À mon logement le soir vint Robert Guy et Abraham Shackleton, ce dernier de Ballitor, qui avait parcouru 42 milles afin de me voir. Il professe des opinions d'une nature singulière, il s'oppose en particulier aux cinq premiers livres de Moïse, mais d'une manière générale, au récit des Juifs dans l'Ancien Testament et à diverses parties du Nouveau Testament, il déclare penser qu'il n'y a peu ou pas besoin de livres, de quelque sorte que ce soit, sur des sujets religieux, qu'ils ne font qu'obscurcir l'esprit et l'empêchent de se tourner entièrement vers Dieu, la source de toute lumière et de toute vie. Mais de tous les livres de nature religieuse, il déteste particulièrement les journaux des amis, et il a une faible opinion du ministère et de la discipline, et de toutes les aides secondaires en général, il veut que tous les gens soient tournés vers la lumière divine en eux seuls. Le Christ, dit-il, était un bon homme, le chef du peuple, parce qu'il obéissait entièrement à cette lumière, dont il était rempli d'une manière particulière. Il pense que les évangélistes Matthieu, Marc, Luc et Jean sont de pauvres historiens, que Paul a tiré une grande partie de ses épîtres au pied de Gamaliel, le grand docteur juif de la loi mosaïque, et que beaucoup de leurs parties sont donc de la rabbinaille, que le christianisme était la même chose pour ceux qui obéissaient à l'onction, avant la venue du Christ en chair que depuis, etc. Je perçus que tout cela s'accompagnait d'une prétendue aspiration vers un état plus élevé de perfection et de rédemption que notre société n'y est encore parvenue. Quant à moi, je ne pouvais voir comme lui, ni m'unir à lui dans ses expressions et opinions erronées, et je crains qu'elles ne produisent beaucoup de mal si lui et d'autres dans cette nation ne sont pas amenés à un profond abaissement, ses talents et sa moralité rendant l'erreur entre ses mains plus dangereuses. Nous nous séparâmes sans grande satisfaction, du moins de mon côté. Commentaire de l'éditeur du site, Barclay et Whitehead avaient tous deux fait des déclarations allant dans ce sens. Si un homme se trouvait dans un pays où il n'avait jamais entendu parler de Jésus, ou si un homme ne savait pas lire, étant illettré, il lui serait possible d'atteindre le salut par une obéissance totale à la lumière intérieure. Deux grands « si » que ceux d'Irlande ne remplissaient pas. Quiconque sait lire et a la Bible à disposition serait d'une arrogance effrayante en déclarant que les Écritures n'ont pas ou ont peu de valeur, et un Quaker qui n'aime pas non plus les journaux de ses fondateurs est sans espoir. Si quelqu'un est si rempli d'orgueil et d'importance personnelle qu'il croit ses opinions supérieures à la doctrine de la Bible, il ne devrait certainement pas être dans une position de direction. Le fait que cet homme fût un ancien éminent ne fait que témoigner de la détérioration de la foi Quaker avant 1800, du moins en Irlande. George Fox et les premiers amis témoignèrent de la manière dont le Christ leur montra les événements des Écritures lorsqu'ils entrèrent au paradis. Ainsi, quiconque ne peut accepter certaines parties non essentielles des Écritures devrait simplement demeurer dans la croix, demeurer obéissant et souffrir la tribulation, jusqu'à ce qu'il entre dans le royaume pour recevoir la révélation personnelle et l'ouverture des Écritures. Fox dit qu'il fut témoin des événements de la Bible, extrait de son journal, mais lorsque l'homme passe par l'Esprit et la puissance de Dieu à Christ, qui accomplit les types, figures, ombres, promesses et prophéties qui parlaient de lui, et qu'il est conduit par le Saint-Esprit dans la vérité et la substance des Écritures, s'asseyant en celui qui en est l'auteur et la fin, alors elles sont lues et comprises avec profit et un grand délice. Et lettre 239. Ainsi, ceux qui sont dans cette semence royale comprennent l'état et le temps avant la loi, le temps de la loi, le temps des chrétiens et le temps de l'apostasie, car la semence Christ est le premier et le dernier, le commencement et la fin, et dans la semence se trouve la stabilité et la simplicité des paroles et de la vie, bien que cela soit un mystère pour tous ceux qui en sont hors. Et ceux qui sont dans la semence comprennent et voient l'état des souffrances des justes avant la loi, et l'état des souffrances des justes dans la loi, par qui et pourquoi ils ont souffert. Et ils comprennent aussi l'état des chrétiens qui vivaient à la fin de la loi, en Christ la substance, et par qui ils souffrirent, et pourquoi même par ceux qui étaient les plus grands professeurs, hors de la vie de Moïse et des prophètes, vie dans laquelle, s'ils avaient été, il aurait lu Christ la substance, et tous ceux qui ont témoigné de lui en furent témoins. Et ils comprennent les. En Amérique, Anthony Bunzé avait écrit un livre, Considération au haut, et après avoir cité le sermon sur la montagne, il dit « Ainsi avons-nous des raisons de croire que l'injonction et la permission accordée aux Juifs de faire la guerre aux ennemis des Juifs et les uns contre les autres, furent la conséquence de cette dureté de cœur qui prévalait parmi eux, et que cette permission fut accordée pour le même motif que celui mentionné par notre Seigneur lorsque les Juifs invoquaient la licence que Moïse leur avait donnée de renvoyer leur faim. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a écrit ce commandement, Mais dès le commencement de la création, Dieu les fit mâle et femelle, ce donc que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare point. Cela, ainsi que la guerre, de même que l'esclavage et d'autres pratiques de même nature, était une atteinte à cette union, à cette pureté et à cet amour fraternel qui existait au commencement, dans la constitution originelle des choses, tant que l'homme conservait son innocence primitive. Et que le fait de répandre le sang humain n'était pas acceptable aux yeux de la parfaite déité, que l'apôtre désigne sous l'appellation d'amour, Dieu est amour, apparaît de l'interdiction imposée au roi David de ne pas bâtir une maison à Dieu, du fait qu'il avait participé à la destruction de ses semblables, comme il l'a lui-même déclaré 1 Cron. 22:8 La parole de l'Éternel vint à David, disant, « Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, parce que tu as versé beaucoup de sang sur la terre devant moi. » Il ne fait aucun doute que le traité d'où ce passage a été extrait a été largement diffusé en Amérique et généralement approuvé par les amis qui s'y trouvaient. Il est aussi probable que ce livre ait circulé en Irlande et qu'il ait été à l'origine de tant de défections au sujet des écritures prétendues non saintes. Une fois que l'on admet qu'il peut y avoir une erreur grave dans une partie des écritures, on a alors des raisons de les mettre toutes en doute. Commentaire de l'éditeur du site. Qui a dit aux Juifs de tuer tous les Cananéens à l'intérieur des frontières de la terre promise parce que les Cananéens pratiquaient la prostitution rituelle et le sacrifice par le feu de leurs enfants à leur faux dieu Moloch, qui a dit aux anges de détruire Sodome et Gomorre, qui a détruit toute l'humanité, sauf Noé et ses fils, par le grand déluge, qui a détruit 70 000 hommes par la peste à Jérusalem lorsque David dénombra les hommes capables de tirer l'épée, qui a ouvert la terre pour engloutir Corée et ses hommes avec tous leurs biens, détruisant ensuite 250 hommes par le feu, qui a fait tomber les murs de Jéricho et ordonné que tout fût détruit sauf Rahab, qui a envoyé un ange du Seigneur pour tuer 145,000 hommes du roi d'Assyrie afin de sauver Jérusalem. L'ordre de Dieu à Moïse d'éliminer les Cananéens est venu 400 ans après que Dieu eut promis à Abraham la terre des Cananéens à la descendance d'Abraham, car Dieu dit à Abraham qu'il faudrait 400 ans avant que les iniquités des Cananéens n'aient atteint leur plein accomplissement. Leur méchanceté n'avait pas encore atteint le point d'intolérabilité. Ces gens qui pensent que Dieu ne commanderait pas la guerre étaient et sont aveuglés dans leur obsession contre la guerre. Le témoignage des premiers Quakers contre la guerre visait à l'origine à montrer combien ils étaient résolus à ne pas combattre. Cela devint une telle obsession chez les Quakers que, 100 ans plus tard, ils conclurent que Moïse était un menteur et que la Bible était un mensonge, parce qu'elle disait que Dieu avait ordonné les guerres juives. 160 ans plus tard, ils commencèrent à critiquer durement les soldats et les gouvernements. Pour en savoir plus à ce sujet, voir Submission. Ne vous méprenez pas sur ce que j'écris ici. Depuis la nouvelle alliance du Christ, la lumière a remplacé l'ancienne loi. En aucune circonstance un véritable chrétien ne serait jamais appelé par Dieu à tuer, mais il est clair que les temps de l'Ancien Testament étaient différents, avec une norme différente. Le « œil pour œil » de l'Ancien Testament a été remplacé définitivement par « aimez vos ennemis ». L'Ancien Testament est une allégorie physique indélébile, délibérément créée, du cheminement spirituel que chaque homme doit accomplir pour tuer tous ses ennemis dans son cœur, en préparation à l'entrée dans le royaume et dans le repos. Hébreux en énonce plusieurs, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Quelle que soit la perte subie par les gens pour créer cette allégorie indélébile, elle sera compensée par un Dieu parfaitement juste. Et souvenez-vous, Dieu connaît l'avenir. Il sait si un peuple ne fera que s'enfoncer davantage dans le mal. Normalement, il les laisse creuser aussi profond qu'ils le veulent, jusqu'au temps de la mort naturelle. Mais s'il sait qu'ils devront passer par l'enfer après la mort, sans espoir d'être réconciliés avec Dieu de leur vivant, et si cela sert son dessein plus large, leur mort peut être miséricordieuse. Miséricordieuse parce qu'ils cessent de s'enfoncer plus profondément dans le gouffre du mal, dont ils devront se dégager dans la vie suivante, appelée l'enfer. Voir Is There Hope for All pour les détails. Heureusement, la douleur et la souffrance que les gens éprouvent dans cette vie seront compensées par Dieu dans la vie suivante, cette vie étant comme un rêve lointain. Et tous seront consolés, et tous diront que Dieu est juste, et tous diront que Jésus-Christ est Seigneur. Et ces choses seront dites avec sincérité et honnêteté par tous, car Dieu ne prendrait aucun plaisir à ce que quelqu'un mente sous la contrainte ou sous la menace de la force. Ces choses seront dites du fond du cœur par tous, à la gloire de Dieu le Père. Il engloutira la mort. Et le Seigneur Dieu essuiera les larmes de tous les visages, et l'opprobre de son peuple, il l'ôtera de toute la terre, car le Seigneur l'a dit. Isaïe 25, puis à peu près au même moment que la scission au sujet des Écritures se produisit en Irlande, deux autres questions réduisirent encore les rangs des Quakers d'Irlande. 1. La censure sévère de 10 amis, qui avaient assisté à un mariage dans une assemblée Quaker sans avoir soumis la demande d'approbation préalable. et de l'interdiction faite aux amis de participer aux réunions de discipline lorsqu'ils avaient soutenu ou fréquenté des enfants qui s'étaient mariés en dehors de la foi quake, par exemple par un prêtre. Cela se produisit principalement à Belfast, mais le mécontentement à l'égard de la discipline était répandu et entraîna une nouvelle séparation de beaucoup. Commentaire de l'éditeur du site, Janet a déclaré que la discipline était trop sévère et qu'elle violait l'esprit de réconciliation, et d'après les faits rapportés, je suis d'accord, en particulier la censure pour association avec des enfants naturels, c'est une violation majeure de la liberté chrétienne. Fox aurait probablement gagné ces personnes par des avertissements aimants et doux. La hiérarchie de l'Église irlandaise semble avoir paniqué, peut-être compréhensiblement, mais au prix de grandes pertes. Ce sujet continue, cliquez ici. Le but de ce site web est de montrer comment devenir libre du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.